Bonjour et bienvenue au 1AI Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas les codes de réparation. On aurait pu faire une minute de silence, mais c'est un peu difficile en podcast. Ça vous aurait emmerdé.
Bah, en fait, disons que ça aurait permis à pied de se préparer pour commencer, en fait. Mais...
Ouais. Et oui, parce que j'ai besoin d'une minute de silence. J'avais coupé tous ces passages dans le précédent.
Ah, ils sont pas au courant. Non, ouais, c'est nul ça.
Bah, c'était un peu chiant en fait. Et donc Jean Giraud, Mobius, est décédé. Ça fait un petit choc au niveau de la bande dessinée. On en a jamais parlé en plus. Enfin, si, on y a fait allusion des tonnes de fois. Dans notre premier podcast avec les invités, on en a parlé directement. C'est-à-dire que ils nous avaient parlé de... Nos invités, c'était les scénaristes des Geeks. Ils nous avaient parlé de Blueberry.
Le gang, ouais.
Voilà, on s'était moqué de Vincent Cassel et...
Non, parce qu'en fait, je disais que je connaissais que ça, en fait, voilà. Blueberry. Je crois que j'ai jamais lu un Blueberry.
Je crois que j'ai jamais lu un Blueberry non plus. Par contre, j'avais lu l'Incal que j'avais adoré. J'avais lu quelques autres trucs qu'il avait fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, on y a de toute façon à un moment ou un autre fait référence parce que c'est un artiste qui a marqué toute une génération d'auteurs de BD. Il y a qu'à voir les milliers d'hommages qu'il y a de partout sur le net et qui viennent du monde entier. Et c'est surtout ça, je crois, qui est important, c'est qu'il a touché le monde entier. C'est pas cantonné. Enfin, on peut pas dire que Jean Giraud Mobius était un artiste franco-belge. C'était un artiste qui a touché à l'international, qui a travaillé avec les Américains, avec les Japonais. Il a dessiné le Surfeur d'argent. Si, ça, je l'avais lu, tiens aussi. Son Surfeur d'argent avec Stan Lee au scénario. Il a travaillé avec Taniguchi sur Icar. Enfin, il a fait des trucs. J'ai peut-être une connerie sur Taniguchi. Je suis pas spécialiste. Ça, je l'avais pas lu. Donc bon, on va essayer de faire une émission spéciale là-dessus. Mais j'essaie de réunir les gens. C'est pas évident. Tout le monde a des milliers de choses à faire. On verra si on arrive à le faire. Mais puisqu'on parle d'émission spéciale, Thio, eh ben, on va bientôt en faire des classes. Oui, non, non.
On va en faire des classes.
Oui, des émissions spéciales.
Tout à fait.
Oui,
tout à fait. D'ici 15 jours, là, un truc.
De malade.
Un truc de malade, pas très très loin, dans les Calanques.
Pas très très loin, ça dépend où vous.
Ça dépend où vous êtes, oui. Enfin, alors, pour nous, c'est pas trop loin.
Poditeurs canadiens et suisses.
Tant pis pour vous. Désolé.
Voilà, vous avez des bons festoches de votre côté.
Et nous, on a un chez nous qui s'appelle Des Calanques et des Bulles.
Ouais, et les orgas ont gentiment accepté...
qu'on se tape l'incruste, quoi.
Qu'on se tape l'incruste, ils nous ont même appelé, parce que c'est un des premiers... Les premières interviews que j'ai faites, carrément.
Je crois que c'est la première, oui, que tu
avais
faite.
Ouais, j'ai interviewé Fabrice Tarin, là-bas, et je crois qu'on remonte à 2 ans, quasiment. Et ils ont découvert ça, et puis bon, faut dire aussi qu'on recherche Des Calanques et des Bulles dans Google, apparemment on est 3e. Oui, oui. Donc, en gros, on a rencontré les organisateurs. On va participer avec eux au festival. On a plein d'interviews qui sont prévues. On devrait faire quelque chose d'assez génial si tout se passe comme on le sent. Le Festival des Calanques et des Bulles, c'est le 31 mars et le 1er avril à Lumini, sur le campus d'Euromed Management, une école de commerce. Vous allez savoir un peu pourquoi tout ça. Je crois qu'on revient après avec nos critiques comme d'hab, mais là, il y a une petite interview qui s'impose.
Tout à fait.
À tout à l'heure. Le Festival des Calanques et des Bulles aura lieu du 31 mars au 1er avril à Lumini. Et nous recevons aujourd'hui deux des organisateurs, Christopher et Olivia. Bonjour.
Bonjour. Alors moi, c'est Christopher, responsable du Festival des Calanques et des Bulles.
Bonjour. Olivia, responsable du pôle auteur.
Bonjour aussi, hein, parce que je suis là, mais il m'oublie tout le temps.
Ouais, je sais, mais j'aime bien, tu vois, ça te force à prendre le micro, à prendre la parole. Donc, on va parler un petit peu de l'organisation de ce festival, qui est un peu particulier, parce qu'en fait, vous êtes étudiants.
Alors oui, c'est ça, donc on est tous étudiants, donc tous bénévoles, en fait, donc de l'école Euromed Management. Et on travaille pendant 2 ans sur ce festival, une année en tant qu'apprenti pour connaître, apprendre, et une année où on organise vraiment et on essaye de faire passer un peu flambeau aux nouveaux qui arrivent.
Donc c'est un projet d'école qui dure depuis combien de temps, ce projet ?
Alors en fait, ce projet-là, il a commencé, la première édition était faite dans les années 70, donc par un étudiant d'Euromed aussi, qui est maintenant responsable des associations au sein de l'école. Et en 99, une équipe a repris ce festival. Et depuis 99, tous les ans, on a une édition des Calanques et des Bulles à Marseille.
Quelle était la volonté au départ pour créer, on va dire, ce festival? C'était un passionné de bande dessinée ou c'était pour créer simplement un projet au niveau de Euromed?
Pour la petite histoire, donc c'est vraiment une question de passionné. C'est un élève qui s'était investi dans l'école et qui n'avait pas forcément réussi à faire tous les projets qu'il voulait faire au sein de sa scolarité. Et en dernière année, en fait, sur un festival, donc je ne sais plus lequel, il rencontre des auteurs et les auteurs lui disent « Nous, on n'a plus de festival où on peut se retrouver, on n'a jamais le temps d'être entre nous, on a un métier qui est assez solitaire et on aime bien se retrouver sur les festivals, et ça se perd. » Et donc, lui, son idée, c'est il est allé voir tous les auteurs qu'il pouvait en disant « Moi, je vous fais un festival où vous pouvez être ensemble, vous aurez du temps. » C'est pas une usine et vous venez à Marseille et vous allez aimer. Et donc c'est comme ça que ça a marché, tout simplement. Il a créé un endroit où les auteurs pouvaient se retrouver. Donc c'est la première volonté, c'est que les auteurs s'amusent et profitent ensemble.
Au niveau du projet, en fait, les étudiants qui se mettent dans le projet, c'est parce que c'est une validation du V ou c'est là aussi une passion ou une envie de partager avec
Y a des deux. Il y a une validation, ça fait partie quand même de la scolarité. Par contre, cette validation, c'est pas forcément un gros projet associatif qui va vous prendre 2 ans. Là, c'est un investissement, c'est les investissements les plus lourds. Donc souvent, c'est des passionnés qui choisissent de faire ceux-là parce qu'ils savent que ça va leur prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est un choix.
C'est un choix, ok.
Je vais répondre aussi, de façon personnelle. En fait, quand je suis venue à Euromed pour mes oraux, j'ai vraiment été séduite par le festival et je savais pas que ça rentrait dans une validation quelconque, quoi. Donc quand je me suis présentée pour le festival, j'avais harcelé Christopher de mail avant d'entrer à Euromed, même pour j'avais déjà des petites idées pour le festi et tout. Et donc vraiment, j'y suis allée parce que ça me plaisait et pas parce qu'il fallait valider telle ou telle chose, quoi. Voilà.
Au niveau de l'organisation du festival, vous êtes axé uniquement sur les rencontres avec les auteurs, les dédicaces, ou il y a d'autres événements autour de ça?
Donc oui, on propose toujours l'espace dédicace qui, lui, n'est pas ouvert toute la journée parce que on a justement d'autres choses à proposer aux festivaliers. Donc c'est assez nombreux. On essaie d'avoir une offre qui touche un maximum de monde et de passionnés ou non, tout simplement. Donc on a forcément nos bouquinistes, nos libraires qui sont là pour proposer les bandes dessinées à dédicacer. Bon, on a aussi des auteurs un peu moins connus, par exemple des maisons d'édition indépendantes ou des fanzines qui sont là aussi pour montrer leur travail. On a un espace où là vous pouvez amener vos enfants, on leur fait découvrir le dessin, ils peuvent s'occuper, on fait des animations, donc ça permet aux parents de pouvoir se déplacer un petit peu sur le festival et aux enfants de s'amuser, de découvrir un truc un peu plus sympa que la dédicace qui va pas forcément avoir beaucoup d'importance pour un petit 5 ou 6 ans. On va développer un côté manga. Parce que il y a la BD classique, mais le manga aussi très important et se développe, donc c'est important de proposer ça aussi pour faire plaisir au plus grand monde. Ensuite, on laisse de l'espace pour la lecture. Si vous voulez, vous avez trouvé une petite BD sympa que vous avez envie de vous lire tout de suite, vous pouvez pas attendre. Il y a de quoi vous mettre dans un coin et de profiter, un endroit calme. Le but, c'est que voilà, ça plaise au plus grand nombre, que ce soit assez sympa et convivial dans le mode de fonctionnement pour tout le monde, que ce soit les équipes, les auteurs, les festivaliers, et c'est vraiment là-dessus qu'on joue, quoi, au maximum.
On a aussi un concours de cosplay, donc pour rester dans l'univers du manga. On a un match d'impro dessiné, ça, un concert dessiné aussi, donc avec des auteurs musiciens qui jouent et des auteurs qui vont dessiner sur un thème sur lequel ils se sont mis d'accord auparavant. Et on va avoir une ou deux conférences aussi. Mais là, les thèmes ne sont pas définis encore. Donc voilà, on communiquera ça après.
D'accord. Niveau des dédicaces, ça se passe comment? C'est à la bonne franquette, à l'ancienne. Les auteurs s'installent. On achète les BD aux auteurs ou à la boutique avant, on vient avec ses propres BD. C'est quoi la technique?
À la bonne franquette, c'est un peu la bonne expression. On peut venir avec ses propres BD, on n'est pas obligé d'acheter. L'entrée est gratuite, l'accès aux auteurs est gratuit. Vous venez avec vos BD si vous avez vos BD. Si vous voulez en trouver des nouvelles, en acheter une neuve, en retrouver une sympa chez le bouquiniste, vous prenez. Pour les dédicaces, on peut aller voir les auteurs qu'on veut, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de tirage au sort. C'est voilà, si on a envie d'aller voir un auteur, on va le voir. C'est ouvert de 14h à 18h30, ça peut varier d'un quart d'heure, 20 minutes, il se peut que l'auteur se déplace, on ne le force pas à rester 4h30 assis sur la chaise pour dédicacer, parce qu'il faut qu'il y ait 4h30 de dédicace. Voilà, il faut que ce soit un plaisir des deux côtés, et c'est là que ça rend le contact sympa entre l'auteur et le festivalier, si les deux sont heureux, c'est là que c'est sympa.
Et donc cette année, qui en aura la chance de rencontrer au festival ?
Je vais laisser Olivia parler de cette belle liste que nous avons cette année.
Alors, je vais peut-être... Je vous laisse tous ou... Ouais. Bah ouais. Allez.
On virera les noms qui ne nous plaisent pas au montage.
Non, vous êtes méchants. Donc, notre parrain de cette année, c'est Adrien Floch.
On doit faire les « ouais » derrière toi.
Voilà.
Ouais ! Ouais !
Donc... Nominés sont...
voilà. Lucille, alors, je sais pas si ça se dit Lucille ou Lucie. Ouais, Gomez. Vincent Co.
Faut que je le rajoute après.
Ouais, on rajoutera après.
Rémi Torregrossa, Noriel, Turf, Jean-Michel Thirier, Aurélia Horita, François Amoretti, Maya Mindou, Viden Locher.
Je sais pas comment on dit.
Je sais pas, ouais.
C'est toi le spécialiste.
Viden Locher, mais bon, chacun son truc après. Hein,
Viden Locher, c'est ça.
Viden Locher.
Voilà, c'est ça. Manu, Philippe Cardona, Florence Torta. Pierre Loavé, Claude Gutt, on dit Gutt, ouais. Jérôme, Xavier Rothfichet, Maggi Boulet, Julien Loïs, Domas, Di Martino, Bruno Bessadi, Clément Balou, Julien Parra et Corcal.
Quelques noms de stars se sont glissés dans cette liste. Nous vous laissons deviner lesquels. Ok, ça fait une sacrée jolie liste. Comment vous organisez pour recevoir les auteurs, parce qu'ils ne viennent pas tous de la région, donc j'imagine qu'il y a une sacrée logistique à gérer autour de ça.
Alors en fait, ça c'est un travail entre le pôle auteur et le pôle logistique. Donc, au pôle auteur, on est deux personnes, donc on fait le choix des auteurs, on contacte les auteurs pour qu'ils viennent sur le festival. Et on leur demande toutes les infos nécessaires au pôle logistique, donc c'est une personne qui s'occupe du pôle logistique, Valentin. Ouais, un sacré travail quand même. Voilà, donc lui après s'occupe de prendre des billets de train, s'il faut des billets de train, s'occupe de faire les plannings pour qu'on aille chercher les auteurs à la gare, etc. Voilà. Parce que on héberge, on s'occupe du transport des auteurs et de la restauration, voilà.
D'accord.
Après, comme j'ai pas encore vécu le festival, peut-être que Christopher...
Oui, bah en gros, c'est un gros travail pour Valentin, on essaie de l'aider au maximum, simplement parce que le festival, c'est le samedi et le dimanche, mais l'organisation, la logistique, c'est du vendredi, voire jeudi, jusqu'au lundi soir, c'est 40 personnes à gérer 24 heures sur 24, donc que ce soit transport, hébergement, alimentation, le tout, il faut que tout soit préparé à l'avance. Donc c'est beaucoup de questions à poser aux auteurs, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des personnes qui relancent pas mal nos auteurs pour avoir toutes les infos. Et puis bah après bah comme je vous ai dit, le but c'est qu'ils soient aussi à l'aise dans le festival. On a un côté plaisir des festivaliers, donc ça passe par les dédicaces, mais ça passe aussi par les animations qu'on offre. Il faut qu'il y ait un plaisir des auteurs de venir sur le festival, c'est notre marque de fabrique et on espère la garder auprès des auteurs.
Vous avez combien de pôles différents? Je vois que vous parlez de pôles au niveau de l'organisation. Déjà, les pôles, ça semblé évident que vous deviez tout découper au niveau de l'organisation pour vous y retrouver. C'est des méthodes qu'on vous apprend en cours. D'où ça vient cette organisation et combien de pôles vous avez là?
Y a une partie forcément scolaire qui fait que c'est des postes qui sont quand même clairement définis à la base. Malgré tout, on est obligé de travailler ensemble sur certains pôles parce que... On peut pas totalement séparer et dire toi tu t'occupes de ça et toi tu t'occupes de ça et pas en discuter tous les deux. Il y a plein de choses qui travaillent rien que la logistique et les pôles auteurs. Ils sont séparés parce que chacun a son poste prédéfini, mais ils travaillent très 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 souvent ensemble. Plus le festival arrive, plus ils travaillent ensemble et ça se regroupe tous les deux parce que ils sont obligés de travailler ensemble complètement.
Et ça fait combien en fait d'étudiants sur le festival au niveau organisation?
Cette année, alors on est 18 à l'organisation avant le festival. Sur le festival, on est une quarantaine à devoir gérer. Voilà, sur le festival, les auteurs, un petit peu tout. Quoi.
Vous êtes que des étudiants ou il y a des bénévoles qui viennent de l'extérieur?
Uniquement des étudiants. Il pourrait y avoir des bénévoles. Chaque année, il y a toujours 2-3 personnes qui ont envie de venir aider. On n'a pas forcément besoin, donc si c'est une utilité, avec plaisir, on utilise ces gens-là. Sinon,
vous faites partie d'un festival qui ne cherchait pas des bénévoles tous les ans. C'est super rare, en fait.
Bah oui, on a cette chance-là. On cherche d'autres trucs, on a du mal avec d'autres choses, mais ça, on a de la chance, on a ce qu'il faut.
Ouais, et vous avez du mal avec quoi? C'est quoi les difficultés en général ou cette année en particulier? Est-ce que vous avez des problèmes particuliers à l'organisation? Des trucs à surmonter auxquels vous attendiez pas? Des surprises?
Bon, la liste d'auteurs, c'est toujours compliqué. On sait jamais à quoi s'attendre. Donc ça, je laisserai Olivia peut-être vous discuter, enfin parler avec vous de quelques petits problèmes qui peuvent arriver. Sinon, des problèmes majeurs. Bon, bah il y a quand même le côté financier, forcément. Organiser cet événement-là, on gagne quasiment rien sur le festival, l'entrée est gratuite. C'est pas notre but, hein, forcément. On le sait que chaque année ça va être un peu difficile, mais le logement, le transport, les coûts peuvent être totalement différents selon la liste d'auteurs. Vous pouvez avoir des milliers d'euros en plus à dépenser pour le transport, des milliers en moins. Donc c'est le genre de choses qu'on peut pas prévoir et que c'est très difficile au niveau des partenaires d'avoir de l'argent. Même pour des festivals BD, la crise se fait sentir et vraiment aucune entreprise donne d'argent. On peut récupérer que des lots et des petits partenariats de communication.
D'où viennent les sous d'ailleurs pour cette organisation?
Au niveau des animations, par exemple les libraires et les bouquinistes qui eux vendent des produits qui nous payent le prix d'un stand comme sur une brocante ou sur n'importe quelle chose, très simple. Après ils font autant de bénéfices qu'ils veulent, tant mieux pour eux, c'est le but aussi, c'est que tout le monde soit gagnant du festival. Donc ça, c'est une bonne partie de nos revenus, c'est les gens qui viennent sur le festival vendre un produit directement. On a une partie subvention, donc que ce soit au niveau de l'école Euromède ou de la mairie, du département, de la région. Ces subventions-là sont... on ne sait jamais si on va les avoir une année sur l'autre. Ça peut tomber après même le festival, c'est-à-dire qu'on va préparer notre festival à avec 2000 ou 3000 euros de moins, et puis d'un coup ça va tomber, ou pas. Donc il faut prévoir le pire des cas chaque année, et tout en faisant le meilleur festival possible, tout simplement.
Tu parlais de la liste d'auteurs avec Olivia, donc la difficulté de la liste d'auteurs, comment est-ce qu'on se fait un book, surtout que, étant donné que vous, même si vous passez le relais, vous changez quand même tous les deux ans, c'est des têtes totalement différentes. Comment est-ce que vous arrivez à vous faire vos contacts et à gérer ça? Et qu'est-ce que ça amène comme difficulté?
Moi, en plus, là, c'est la première année donc, que je suis sur le festival. En fait, oui, déjà, pour contacter les auteurs, c'est pas forcément facile. Donc, on passe par les maisons d'édition. Après, on a la chance quand même... Enfin, moi, là, j'ai eu la chance d'avoir des attachés de presse assez... coopérative.
En général, c'est des attachés eux de presse d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Bah oui, à chaque fois. Oui, enfin, mais bon, plus ou moins, mais Donc voilà. Après, enfin, j'ai fait des petites invitations personnalisées en fait à chaque auteur. Et voilà. Après, l'auteur nous répond directement ou pas. Donc, ouais, pas forcément facile. Après, par exemple, j'ai rencontré aussi des auteurs directement sur les festivals, à Plantecuc dans la région. Je sais que Clémentine elle est à Angoulême, donc est allée directement discuter avec les auteurs. Enfin, c'est toujours mieux d'être en contact direct quand même avec un auteur. Pareil pour les attachés de presse. Moi, j'étais sur Paris en décembre. Donc je suis allée toquer à la porte de certaines maisons d'édition directement. J'ai pu discuter avec les attachés de presse directement, donc on crée un lien comme ça. Voilà. Après, pour...
C'est un travail qui, en fait, doit être fait quasiment tous les ans par les nouveaux membres de l'équipe.
Oui, parce que c'est vrai que, du coup, quand on est nouveau, on ne nous connaît pas, etc., ça désoriente un petit peu les gens qui travaillent sur place. Après, ça change aussi, des fois, de leur côté. Donc, finalement... le contact, il se renouvelle comme ça. Enfin, mais bon, c'est vrai que c'est... Oui, et puis il y a des contacts qui sont gardés chaque année, c'est sûr. Enfin, déjà, on a la liste d'auteurs, et puis après, si les auteurs ont apprécié le festival, etc., bon, finalement, c'est plus trop une barrière qu'on change chaque année, et ça peut plaire aussi que ce soit toujours des petits jeunes qui organisent le festi.
Le bouche-à-oreille marche entre auteurs, beaucoup?
Ouais, pas mal, ouais. Bah, par exemple, je sais que Boulet, ça fait la troisième année là qu'il va revenir sur le festival. Voilà, ouais. J'ai pas mal apprécié.
S'il revient, c'est qu'il a aimé. Ouais.
Voilà.
Mais là, au mois d'avril, il risque de moins apprécier, je pense. Au mois d'avril, bon. Il risque de moins apprécier au niveau de la météo, non?
Oh non, on espère pas. Bah là, il fait beau, non?
Là, ça va, là aujourd'hui, ça va.
Voilà.
D'ailleurs, vous avez décalé le festival cette année?
Oui, à cause des... Enfin, à cause, ouais, des élections présidentielles, puisqu'en fait, à la base, normalement, c'est fin avril, le festival. Et là, on l'avait placé le 22 avril, mais on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que c'était les élections, donc... Pour tout le monde, c'était mieux de le déplacer, voilà. Et au niveau de la liste d'auteurs aussi, bah, bien sûr, on a des désistements de plus ou moins dernière minute qui sont pas forcément faciles à gérer. Ou alors des auteurs aussi en dernière minute qui veulent venir, c'est pas forcément facile à gérer non plus, au niveau de la logistique et tout. Ouais. Donc voilà, mais ça, on le sait, comme l'avait dit Chris, forcément, c'est aléatoire, quoi. Ouais, tous les ans.
Et au niveau de l'organisation, c'est combien de mois de préparation pour un festival finalement ? Enfin, le début des travaux des groupes pour le festival commence quand ?
Bah, on a l'équipe complète donc des 18 en octobre. Par contre, en petits groupes, à 4-5, ceux qui sont encore là l'été, qui restent, on commence à travailler deux semaines après l'édition précédente. C'est-à-dire que là, Olivia... 15 avril, 20 avril, commencera à travailler au moins sur la théorie, sur comment elle voit le festival l'année prochaine, les pistes directrices pour l'an prochain. Donc là, il va y avoir une petite équipe qui va commencer à travailler là-dessus. Une fois qu'on a tout le monde en octobre, il y a quand même une phase où, là, c'est faire découvrir le festival au nouveau, faire apprendre les méthodes de travail, voir un petit peu qui fait quoi, comment ça se passe. Et en général, décembre, ça commence à vraiment préparer le festi jusqu'au dernier jour. Quoi. Il n'y a plus, c'est non-stop.
Pas trop galère justement d'avoir un mois de moins pour se préparer cette année ?
Si.
La réponse est nette, claire, précise. Vous n'avez pas l'image, mais ouais, ça, là, à la tête de Christopher, ça se voyait que ouais, pas facile.
Non, ça joue, même 2-3 semaines, ça joue. Après, c'est faisable, on le savait que ce serait un petit peu plus court, c'est plus intensif. Mais c'est pas plus mal, pas de relâchement, on fera le festival aussi bien que si on avait 2 semaines de plus.
Ouais, même au niveau des auteurs, justement, enfin, il y a des auteurs qui sont déjà pris du coup sur d'autres festivals en même temps. Et voilà. Enfin, c'est pas forcément. Des fois, on manque de temps pour ça, on peut pas anticiper.
Oui, vérifier les autres festivals qui ont aux mêmes dates,
etc. On vérifie, mais bon, des fois, ouais, ils sont déjà invités. Et, voilà. Et là, le fait qu'on ait avancé le... Voilà. Oui, en plus, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait les élections assez tardivement. Ouais. Donc, ça a un peu tout chamboulé.
D'accord.
Et cette année, l'affiche du festival, elle est faite par qui ?
Donc, elle est faite par Adrien Floch. Donc, belle affiche, en tout cas, moi, je trouve, cette année. Qui reste dans l'esprit du festival. Donc très très content de ce parrain et très très content de notre affiche cette année.
Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fini nos questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur le festival ? Dire comme quoi il est génial ? Vous l'avez déjà dit, mais... Un dernier mot ?
Bah, moi, je l'ai pas encore vécu, donc je vous dirai ça après le festival. Un peu de stress ? C'était génial ou pas ?
Un peu de stress déjà ?
Pour l'instant, ça va, quoique je commence à faire des rêves, je crois, je commence à en rêver un petit peu. Donc,
rêve de la SNCF, le vendredi qui commence le vendredi matin comme ça pour tout le week-end.
Oui, ça peut être des trucs de dernière minute, mais bon, on n'espère pas, ouais, non.
Vous avez prévu des blagues pour le 1er avril ?
Ah non, même pas. Par contre, ce sera, je crois, l'anniversaire de ma chef de Pôle auteur. Tiens, voilà, bref. Donc on fêtera en même temps l'anniversaire. Ce sera cool. Ouais.
Okay,
et Christopher l'a déjà vécu. Je peux témoigner.
Oui, bah, je peux témoigner. Ce qui est sûr, c'est bon, nous, on n'est pas aussi objectif que tout le monde dans l'équipe. Donc oui, on a un petit peu de stress et on a envie que ça se passe très bien. Malgré tout, l'année dernière, on se rend compte qu'une fois qu'on est sur le festival, c'est vraiment un moment de détente. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est le coin qui fait ça, si c'est la mer, les calanques pas loin. Mais on se sent vraiment bien et on profite du week-end. C'est calme et... On s'amuse bien, c'est ça qui est super.
Dernier truc, pour montrer à quel point vous avez quand même un projet sympa, donnez-moi le nom du projet qui donne le moins envie que peuvent avoir les autres étudiants de Romaine. Genre, allez-y.
Non, ça,
le projet n'est vraiment rien que le titre qui donne super pas envie. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le management, c'est un truc bien...
Oh, qu'est-ce qui te vient, toi, Olivia ?
Non, c'est
bon. Dis-moi dans l'oreille.
Attention, conciliabule.
Oui, on va être obligé de dire que tout est bien. Mais si on devait choisir... Si on devait choisir, est-ce que j'ai un truc sympa ?
Je dis pas forcément le moins intéressant, mais le moins sexy. le truc qui donne moins envie, comme ça.
Ça peut être... Je valide ce que nous on valide pendant l'école en essayant d'améliorer un rayon de champ au mieux. Un concours de celui qui fera le plus beau rayon riz de champ, par exemple.
Effectivement, c'est pas exactement.
C'est moins glamour, quoi.
C'est moins glamour. Ah ouais, mais Uncle Ben's quand même, quoi, il a la classe. Je veux dire, oh non.
T'as cité une marque, faut en citer deux autres maintenant, allez.
On s'en fout, on est un podcast. Dernier truc, votre dernière découverte en BD, le dernier truc qui vous est vraiment plu.
Je vais laisser Olivia répondre là.
En fait, mais c'est pas un truc récent. Je crois que c'est sorti en 2008. C'est de Lisa Mandel, Princesse M Princesse, que j'ai lu il y a pas longtemps là.
Ouais.
Et voilà, enfin, j'ai trouvé ça super touchant, enfin très sensible. J'ai beaucoup aimé en fait, comment elle faisait ressortir les émotions et tout. Et en même temps, dans un univers un peu loufoque au début.
Et t'as pas essayé de la faire venir, voilà. Lisa Mandel, parce qu'elle est quand même
si.
Du coin.
Si, si, et elle est au Québec en fait. D'accord. Et 31 mars, 1er avril. Elle est déjà venue sur le festival en plus. Donc j'espère qu'elle pourra venir l'année prochaine, voilà.
D'accord.
Voilà, voilà.
Bah, merci beaucoup. Et puis bah, on se revoit, au festival. Ouais.
Avec plaisir.
Allez,
avec
plaisir. À la prochaine fois. Ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Dans les bacs. Les mondes de Torgal, Louvre, tome 1. Raïssa. C'est un titre à rallonge. Hein. Dessiné par Surzenko. Je ne sais pas comment on prononce le RZHE. Et scénarisé par Yann. Ça, c'est facile à prononcer.
Plus facile.
Donc, après les aventures de Chris de Valnor, qui nous racontait les aventures de Chris en parallèle après qu'elle soit cannée, dont on a déjà parlé, d'autres auteurs continuent à nous parler du monde de Torgal en faisant des histoires parallèles. Donc, cette histoire-là se passe en parallèle des aventures actuelles de Torgal. Torgal s'est cassé pour essayer de retrouver son fils qui a été enlevé. C'est un peu sa spécialité, de retrouver ses enfants, sa famille, qui sont soit enlevés, soit c'est lui qui a enlevé, il doit les retrouver à l'autre bout du monde, etc.
Ça me rappelle un héros de jeu vidéo, ça.
Ouais, ouais.
Qui cherche toujours une princesse.
Dans un autre château.
Ouais.
Et donc, on suit un peu les aventures de Louve, qui est un petit peu la gamine qui se la pète, qui tire à l'arc, qui fait un peu le garçon manqué dans un monde où, quand même, hein, c'est les vikings, quoi. Attends, des vikings. Qu'est-ce qu'elle va nous gonfler, une bonne femme, hein, une gamine, à vouloir faire sa guerrière, quoi. C'est d'accord. D'un autre côté, elle a de qui tenir, Louve. Ben, sa maman...
C'est Aricia.
C'est un peu une tueuse, quoi, aussi. Elle déchire. Et son papa, bah, c'est le scald. Lui aussi, on se foutait de sa gueule quand il était jeune. Et donc, on la voit qui est un petit peu la paria, parce qu'elle cherche un peu la merde, hein, clairement. Enfin, elle cherche la merde, enfin... Estée pas, quoi. Elle reste pas à sa place.
À sa place de femme.
Voilà. Et alors que, elle s'est un peu engueulée avec des jeunes, elle tombe sur un loup qui est tombé dans un piège et elle essaye de l'aider pour s'en sortir. Car elle a un don, c'est celui de parler au loup. Car elle est née en même temps qu'une portée de loup quand sa mère s'enfuyait parce qu'il y avait la marque des bannis. C'était dans la marque des bannis, si je me souviens bien.
Là, je fais ouais.
Peut-être. Ouais, ouais.
Tout à fait.
C'était juste après la marque des bannis. C'était Louvre, attention. Est-ce que je me trompe pas? J'ai les trucs derrière. Ouais, je me plante peut-être parce que Louvre, c'est avant la marque des bannis. Donc, je dis des conneries. Là, ouais, ça va. Donc, et on va suivre ses aventures où elle se retrouve à devoir aider cette pauvre Louvre qui est embêtée par méchante chef des loups qui s'appelle Raïssa. Et Louvre va essayer d'aider les gentils parce qu'elle est comme ça. D'un point de vue du genre, on est toujours dans de la saga nordique, hein, dans du conte même, je dirais, proche du conte. On est toujours dans le conte initiatique, quelque chose qui a toujours été un peu le cas dans Torgal, surtout quand il commence à parler des jeunes, des enfants, etc. Mais là, c'est un peu particulier, parce que c'est Yann qui est au scénario. Yann, c'est un peu... C'est un vieux de la vieille, quoi. Il a touché un peu tous les genres. Je ne m'attendais pas forcément à le voir sur du Torgal, et il fait plutôt bien les choses. Premièrement, moi, au niveau du scénario, j'ai trouvé que c'était foisonnant. Non ?
J'ai trouvé ça assez entendu, en fait.
Compare au dernier tome de Torgal, il se passe plein de choses dans ce bouquin.
Il se passe plein de choses, mais bon, il n'y a rien de neuf, quoi.
À la fin, il donne envie d'avoir la suite, quand même.
Ouais, mais c'est c'est comme dans beaucoup de Torgal, quoi. Oui. Ouais, il se passe beaucoup de choses, et puis à la fin, tu fais.
Ah non, non, dans les derniers Torgal, en général, il se passait pas grand chose. Là, dans le dernier Torgal, non, qu'est-ce qui se passe?
Je te rappelle que moi, je suis pas allé jusqu'au bout des Torgal. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et donc, bah, là, maintenant, j'ai trouvé ça pas mal. Yann s'amuse à laisser plein de pistes. Par exemple, elle se fabrique un collier avec. Avec des crabes fluorescents, et ça ne sert à rien dans l'histoire. Donc on imagine que dans les tomes suivants, parce que c'est à suivre bien sûr, ce sera exploité.
Ou pas.
Je pense que ce sera exploité quand même. Il laisse une chute plutôt bien foutue, il s'amuse à glisser un peu de son humour. Bah, l'enfeu sonne pour le forgeron.
C'était sympa ça.
J'ai trouvé le truc assez rigolo, quoi. Enfin, un clin d'œil à l'enfeuse de Troie dans un Torgal. C'est le dernier endroit où je m'y serais attendu, en fait.
Et ouais.
Voilà. Et donc, ça tient la route. Toi, t'as mis quoi pour le scénario?
Ben, entendu.
Ah ouais.
Entendu, convenu. Ouais, pour moi, j'ai pas trop kiffé, quoi. C'est... J'ai senti un petit peu une redite, si tu veux, d'un Princesse Mononoké, quoi, quelque part.
D'accord. Ouais. Ça m'a pas marqué.
Ouais, le rapport entre le Louvre et elle, ça me faisait vraiment penser à ça. Et puis, bon, après l'histoire, ouais, pas flambante avec le gars qui essaye de.
Spoile pas trop.
Ouais, spoile pas trop. Aricia, forcément, elle est là, toute seule, abandonnée par Torgal, oui. Qui est encore reparti à l'autre bout du monde, forcément.
Il y a encore un mec qui veut la pécho.
Voilà, c'est ça, ça se fait draguer. Et forcément, le mec qui veut la pécho, c'est un peu le gros débile de service que tu peux pas sentir, quoi.
Ouais, enfin ça c'est très secondaire dans l'histoire.
Oui, mais bon, voilà.
Ok. Au niveau du dessin, j'ai trouvé le trait classique, très efficace quand même. Moi j'aime beaucoup le dessin, même si bah, on est sur des bases connues, on est dans du Torgal, ça passe très bien. Je ne retrouve pas le côté un peu moderne qu'on pouvait avoir dans le dessin de Chris de Valnor, justement, où il y avait un côté un petit peu plus stylisé, un petit peu plus anguleux et pointu. Là, on est vraiment dans une très, très... ça sent vraiment l'élève de Rosinski, pas en couleur directe, en tout cas.
Bah, moi, je l'ai mis en deux mots. Hein. C'est classique et beau, quoi. C'est très classique. Il n'y a rien qui sort du cadre. C'est sobre. C'est beau, maintenant, voilà, ça va pas non plus...
C'est même un peu trop académique, parfois, au niveau du découpage. Voilà, c'est le truc que je ferais au reproche, c'est que le découpage est un académisme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les cases sont tracées au cordeau, tu peux découper ta planche, t'as un gaufrier qui est toujours nickel sur 3 ou 4 planches, sur 3 ou 4 lignes. C'est très, très propre. Je trouve que si on prend ça comme une contrainte, c'est bien utilisé. C'est-à-dire que s'imposer un gaufrier comme ça et réussir à avoir une narration fluide, c'est pas évident. Je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est du standard. Donc, Les Mondes de Torgal, Louvre, tome 1, Raïssa, chez Le Lombard. Ça doit coûter dans les 12-13 euros.
Je vais pas laisser le blanc parce que de toute façon, ça sert à rien et qu'en plus, il les coupe au montage, donc du coup, on peut même pas se foutre de sa gueule. Donc je vais vous parler des âmes nomades. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle oui. Canal de Merle. Alors là je suis désolé, pareil ça va être le problème. Ouais. C'est Stephen Keggy. Ouais, peut-être ça.
C'est pas évident.
C'est donc dans la collection Grand Angle.
Ouais.
Alors donc on va suivre en fait l'histoire de Jules qui est un ancien cadre dans une entreprise. Il s'est un peu rebellé parce que visiblement l'entreprise était pas très nette, donc du coup il s'est retrouvé un petit peu dans une situation de marginal et curé en fait, voilà, par la société on va dire. Il vit vraiment en marge et un jour il va faire la connaissance d'immigrants clandestins qui veulent gagner l'Angleterre.
C'est un scénario basique, assez classique.
C'est un scénario ouais. Basique, mais là, je te lis le scénario tel que moi je l'ai lu.
Voilà.
Maintenant, si on lit le pitch derrière,
c'est un peu trompeur. D'ailleurs, pour moi, voilà, le scénario, le mot que j'ai utilisé, c'est trompeur. On essaie de nous vendre quelque chose qui.
Écoute. Voilà. Serre-moi la main.
T'as mis trompeur aussi.
J'ai mis trompeur aussi.
C'est rare. Hein,
moi, j'ai trouvé que j'étais un peu trompé sur la marchandise, vraiment dans le sens où. Je vous lis quand même le pitch du coup parce que
sinon, ouais, je m'attendais pas trop, ouais, vas-y.
Pas trop comprendre. Je suis un tout petit problème de micro là, je gère le truc et je suis à vous. Ça y est. Donc voilà, donc il est marginal. Un jour, il fait la connaissance d'immigrants clandestins. Il décide de les aider à traverser la Manche et de s'installer en Angleterre. Parallèlement, Jules se découvre l'étrange capacité de se projeter mentalement n'importe où sur la planète grâce à un logiciel de visualisation satellite. Jules et ses clandestins africains ont un point commun, ce sont à leur manière d'étonnants voyageurs, des faiseurs de destinées, ce sont des âmes nomades.
Alors, le pitch, j'avoue, ouais.
Il peut se projeter mentalement n'importe où sur la planète.
En gros, il se met sur Google Maps et il rêvasse, quoi. Il laisse son esprit partir, mais c'est plus une image dans la BD qu'un vrai pouvoir.
C'est ça.
C'est ça. C'est L'image est belle, mais c'est pas vraiment à prendre au premier degré, quoi.
Donc du coup, quand vous lisez ça, vous vous dites, bon, bah, a priori, on va retrouver qu'un truc un peu fantastique.
Bah, tu te dis, oh, génial, un problème de société avec un peu de fantastique au milieu, ça va pouvoir être une approche originale, etc. Mais enfin, moi, j'ai trouvé que, malgré cette surprise-là, le scénario n'en reste pas très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça très, très sympa.
J'ai pas été passionné. Ouais. Ça se lit bien. J'avoue que j'ai pas mis 2 heures à lire comme un autre bouquin qu'on en parlera tout à l'heure. Ça se lit facilement, c'est intéressant, mais ça m'a pas passionné.
Moi, j'ai trouvé que c'était bien mené. Il y avait un bon mélange d'action, d'humour, de. Ça posait des questions sociales sans donner de réponse. Les personnages sont bien écrits, sont intéressants. Tous. Ils ont vraiment une approche. Il y a aussi un autre truc qui est un peu trompeur, c'est que c'est vendu comme un tome 1. Je trouve que ça se lit tout à fait bien indépendamment. Je suis arrivé à la fin. J'imagine qu'une suite est possible, mais je l'attends pas spécialement. Tu vois ce que ouais, je veux dire, ouais. C'est une. Là, ça s'arrêterait maintenant. Je serais pas déçu. J'ai trouvé ça très sympa, les âmes nomades. Parlons du dessin.
Alors, je reste dans les mêmes mots. Là, je suis désolé. J'ai encore voilà, classique.
Expressif.
Bah écoute, ouais, vas-y, expressif pourquoi, toi ?
Je trouve qu'au niveau des expressions des visages, le dessinateur a un truc qui arrive à vraiment les amener. Et en plus, à côté de ça, il y a une façon de donner une dynamique dans les personnages. Il y a un côté actif. On les sent qui bougent, on sent le mouvement. On sent une influence de genre très varié. Ça m'a un peu fait penser à du Peters, Frédéric Peters, au niveau graphique. Tu vois, Frédéric Peters, les pilules bleues. Mais en un petit peu plus réaliste, c'est une recherche un peu plus réaliste, et puis une narration très très bien foutue, quelque chose de très fluide, de très agréable à lire. Il a réussi en plus à travailler des ethnies différentes sans être caricatural, ce qui n'est pas évident. Surtout avec un trait qui est dans du semi-réalisme. Il n'est pas totalement réaliste, quoi. Et j'ai trouvé ça très très efficace. Moi, le dessin, j'adore, quoi. Je pense que c'est ce qui aide aussi à vraiment aller dans le scénario tout du long. Enfin, moi, je trouve ça super.
Tu le trouves expressif, quoi.
Ouais.
Ouais, je suis pas à fond là-dessus parce que vraiment, moi, j'ai trouvé que voilà, tous les personnages, leurs yeux, il y a rien, quoi. Il y a le vide intergalactique dedans. Alors peut-être que les visages pour toi sont expressifs, mais bah, j'ai trouvé que ça, bah, au contraire, quoi, ça c'est vraiment c'est classique. Ça me fait pas décoller, quoi.
Ah ouais. Alors moi j'aime bien l'ancrage. Il y a un ancrage aussi qui est un peu
l'ancrage,
particulier.
L'ancrage, je suis assez d'accord.
On n'est pas d'accord. Ah bah, bravo.
Bah, écoute, on n'est pas là non plus pour tout aimer, hein.
Ouais. Les âmes nomades chez Grand Angle.
Chez Grand Angle. Voilà. Votre avis, écoutez, chacun.
Moi, je dis que c'est un petit one shot. Enfin, en le prenant comme un one shot, c'est sympa à lire. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Bon, faut pas s'attendre à une histoire fantastique, quoi. Je pense que si on n'a pas se sentir trompé, en général, ça aide pas à apprécier autant qu'on voudrait une BD. Et ouais. Je pense que si on n'avait pas eu cet a priori dès le départ, on aurait peut-être plus. Enfin, toi, en tout cas, t'aurais peut-être plus apprécié le truc.
Ah, disons que le 4e de couverture aussi te fait croire vraiment que.
Qui vole,
quoi.
Qui est libre, Max. Les Indociles de Camille Rebetez et Pitch Command chez Les Enfants Rouges. Dans Les Indociles, nous allons suivre la vie d'un jeune Suisse qui vit dans les chaînes du Jura dans les années 60 et qui va découvrir la vie, tout simplement. Essayer de se rencontrer une jeune fille qui vient de s'installer dans son bled et vouloir partir à l'aventure, à l'amour, la suivre partout avec elle. Les années 60, quoi. Quand on sent qu'on arrive vers tout ce qui va être rébellion sociale, test de choses étranges, les communautés qui se mettent en place avec des drogues, ça part un peu dans les délires.
La drogue, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut dire non.
Et ensuite donc ces jeunes qui veulent pas suivre le schéma que tentent de leur imposer leurs parents dans le Jura suisse, quoi. Ça fait rêver le Jura suisse.
Ça doit être très très vert, je pense.
Ouais. C'est une bande dessinée qui a un côté autobiographique. Ça sonne autobiographique, même si je pense pas que ça le soit. Les auteurs ils me semblent un peu plus jeunes. Et au niveau du dessin. Pour moi, c'était un dessin simple.
Plat. C'est pas comme le Jura, mais moi, je trouve ça plat.
Moi, j'ai trouvé que c'était un dessin qui était simple, pas virtuose, ça, on peut pas le dire, mais qui allait directement au fait. On voit que, pour moi, c'était pas le truc le plus important de la BD. Ce qui est important dans cette bande dessinée, c'est ce qu'elle raconte. Le dessin essaye de la servir efficacement. C'est simple. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est que parfois, il se tente à faire des effets de perspective qui passent de façon un peu hasardeuse. On sent qu'il y a un manque de maîtrise un petit peu dans le dessin. Et c'est, il aurait peut-être fallu éviter ce genre d'exercice. Mais bon, moi, je trouvais que ça tenait la route. C'était correct. Toi, t'as moins aimé, hein.
Ah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aimé. C'est... Le dessin, bon, on va dire, même s'il était simpliste, moi j'ai trouvé plat dans le sens où il n'y a pas de dynamique, c'est lent, on est vraiment spectateur de tout ce qui se passe, il n'y a pas d'action. Alors c'est certain que le scénario en lui-même ne donne pas non plus une place folle à un barbare avec une hache en train de découper un régiment de Romains, mais enfin, là c'était... Voilà, très 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 lent, quoi. Un peu onirique.
Ah ouais, carrément.
Voilà, parce qu'en fait, pour tout vous dire, au niveau de l'histoire, je crois que c'est la première fois dans ma vie où je me suis replié à 5 ou 6 fois pour lire la bande dessinée.
Ah
mais,
ouais.
Mais 5 ou 6 fois, je commençais, je ne faisais pas, alors je recommençais 3-4 jours après. Je suis arrivé au bout, mais alors vraiment sans aucune passion.
Et ben moi, je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça intriguant tout du long, c'est-à-dire que ce portrait de cette ruralité jurassienne qui essaye de se rebeller, mais je veux dire, tu vas te rebeller dans le jeu. Je connais pas le pays, mais enfin tel que c'est décrit, j'ai l'impression que c'est le dernier endroit au monde où tu as les moyens de te rebeller, quoi. Je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça intéressant de voir ces jeunes qui vivent des expériences, qui voient le monde évoluer de leur coin de chez eux, et puis d'avoir moi aussi ce portrait d'un endroit qui est tout à côté en fait et qu'on connaît pas en fin de compte. Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de la Suisse, toi?
Non, mais c'est que le Jura, c'est pas tout à côté quand même.
Ouais, enfin, mais je veux dire, si c'est à côté, c'est un pays voisin, quoi.
Oui, c'est oui.
Voilà. Donc, je sais pas. Enfin, on se rend compte qu'on connaît pas bien nos voisins et moi, ça m'intrigue toujours de découvrir des choses qui nous montrent un portrait de ce qui se passe à côté. Les pays voisins, c'est pas que l'Espagne et l'Italie qui font un peu rêver tout de suite. Il y a aussi le Jura suisse qui, moi, m'a jamais fait rêver. La Suisse m'a toujours donné envie. Ça a l'air sympa, la Suisse, mais le Jura suisse, je sais pas spécialement. Je ne savais même pas que ça existait, je crois, avant de lire cette BD. Donc, voilà.
Ouais.
Les Indociles chez les Enfants Rouges. Ça coûte 17,50€.
Faites-vous votre avis.
Faites-vous votre avis, c'est ta phrase.
Ouais, et puis il y aura une suite, hein, donc.
Voilà, moi je suis curieux de la suite.
Et donc a priori, donc il va sûrement l'acheter, donc je vais être obligé de la lire. Et on sera obligé de la chroniquer.
Voilà. Hein. C'est quoi ? On s'arrange pour la faire le même jour où on fera, comment ça s'appelle ce truc ? Pulsion, le dernier
Pulsion,
tome.
Pulsion, le tome 3, c'est ça.
Voilà, hein, on fera ça en même temps.
Et donc on va chroniquer à la fois une vieille BD.
Pas tant que ça, mais ouais.
Dès le premier tome, donc, qui s'intitule...
La BD la plus difficile à rechercher au monde.
Pourquoi plus difficile à rechercher au monde ?
Pourquoi ? Parce que dans la plupart des moteurs de recherche, il faut taper au moins 3 lettres pour pouvoir chercher quelque chose.
C'est pas bête.
Alors,
ça,
autant te dire que quand je suis allé demander à la librairie, au fait, D, il n'est pas censé sortir. Il me fait, attends, je crois que c'est en retard. Attends, je vais chercher D. Ah non, il me veut au moins trois lettres. L'auteur, c'est comment? Erol. Erol, t'écris ça comment déjà? Attends, mais il y a aussi Majorana. Majorana, ah oui, le truc avec un i tréma, mais je crois que le moteur de recherche prend pas les trémas. Enfin bon, autant te dire que c'est galère.
C'est galère. Bon, mais donc c'était D, donc Lord Foreston. Et le tome 2, Lady Dangerous.
On pensait avoir déjà fait le tome 1, mais en fait...
Pas du tout. Voilà.
Parce que ça a dû sortir au début du podcast, donc il y a 2 ans, un truc dans le genre.
C'est ça, je pense que ouais, c'est quasiment ça. C'est sorti en fait quand on a commencé le podcast. Et du coup, on l'a pas chroniqué.
Voilà.
Alors, pour vous raconter l'histoire, on va suivre donc les aventures un petit peu de l'explorateur Richard Drake. Yeah. Un grand et solide gaillard anglais qui a décidé de chercher en Afrique l'aventure, la renommée, la connaissance des autres aussi. Et qui revient en Angleterre et qui
pour chercher des
financiers, sous, des mécènes, quoi, pour qu'ils puissent
la reconnaissance des autres
aussi. Et aussi une femme, une certaine Catherine Lacombe, une charmante lady. Mais sauf que la lady, elle tombe amoureuse d'un dandy, un certain Lord Foreston.
Un dandy parvenu.
Voilà, un petit peu bizarre que personne ne connaît, et il va commencer à se dérouler des choses un petit peu bizarres. On va retrouver Catherine Lacombe dans le jardin avec un employé de banque qui essaye de lui percer le cœur avec un pieu.
Nous sommes dans du... C'est de l'horreur.
Ouais, de l'horreur gentillette.
C'est de l'horreur gentillette, mais il y a un petit côté aussi, comment elle s'appelle l'auteur anglais, l'anglaise qui fait que, zut, j'ai jamais lu, mais ça sonne cette ambiance-là, machin, chose et sentiments, raison et sentiments et compagnie. Les auteurs anglais dont tu n'as jamais entendu parler et qui me disent quelque chose.
Ouais.
Time Warp.
Et bien évidemment, il fallait reconnaître qu'au début, nous parlions de orgueil et préjugés et pas de raison et sentiments.
De Jane Austen.
Voilà.
Ça n'existe
pas. Raison
du tout.
Et sentiment n'existe pas, sauf pour un épisode de Angel, la saison 1.
Bon,
l'épisode 6 pour les connaisseurs.
Qui était écrit. Non, on s'en fout. Reprenons un peu ce podcast en main.
Il se passe n'importe quoi ici. Hein. Donc, nous en étions à D, donc, de Erol et Majorana. Alors là aussi, hein, les prononciations, désolé, chacun l'a fait comme il veut. Je pense que c'est pas trop mal. Qu'as-tu pensé du scénario?
J'ai mis un mot bâtard parce que je savais pas trouver mieux. Évolutif. Dans les deux tomes, hein, je te parle. On a un premier tome, mais qui est d'un classicisme outrancier. Alors, il y a l'écriture d'Alain Erol que moi je trouve sublime. Il a une façon de ciseler les dialogues. Ce mec est.
Ah, c'est de la dentelle, quoi.
C'est magnifique. Je veux dire, quand ça commence où on voit Drake qui arrive. Dans un dîner, enfin dans une soirée mondaine, et ça commence à tracher dans tous les sens, à s'envoyer des pics. C'est superbement écrit, je veux dire, moi j'ai trouvé ça génial. Ça fait penser un peu à. Tu vois, je cherche encore un nom de film, Ridicule. Tu vois, t'as un peu ce côté-là. Ça a toujours, enfin pour moi, Erol est un dialoguiste vraiment qui est magnifique, qui te fait des trucs superbes. Mais le premier passage est d'un classicisme, mais outrancier pour quiconque s'y connaît un minimum en histoire de vampire, genre qu'a lu ou vu le film Dracula.
Ouais.
Ça va pas beaucoup plus loin.
Je suis d'accord avec toi.
Le deuxième tome, on a l'impression que d'un coup, il se dit, bon, j'ai posé mes bases. Et là, maintenant, hey, on va aller un peu en profondeur dans les personnages. Et on va un peu mettre des zones d'ombre et de doute de partout. On va essayer de montrer que Lord Drake est peut-être pas si blanc que ça. Et il s'arrange pour qu'on ne sache pas vraiment derrière. Pour se rendre compte que Lord Foreston est peut-être pas si important que ça. Et qu'il y a d'autres choses autour qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus impressionnantes. Et autant je me souvenais vaguement du premier tome... Autant à la fin du tome 2, j'avais une envie de lire la suite. Wow!
C'est ça, moi j'ai vu que le scénario était un peu lent. Lent au début, et puis avec le tome 2, d'un coup tu.
Bah, heureusement, tu as ces dialogues quoi, qui te permettent.
Ouais.
Tu as un plaisir de lecture.
Tu as un plaisir de lecture, mais du coup, c'est vrai que voilà, quand tu arrives au tome 2, tu as.
Ça recommence encore dans une soirée mondaine d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il va nous faire le coup à chaque fois. Ça serait un gimmick sympa, surtout que à chaque fois, il te balance de ses vannes et de ses enfin. C'est...
Non,
et
puis tous les personnages en plus ont quand même un intérêt et une belle profondeur, quoi. C'est intéressant. Mais dans le deuxième tome, je trouve qu'il y a vraiment une explosion au niveau de l'histoire, quoi. Parce que là, il y a tout qui se met en place.
Mais il y a de la surprise.
Ouais.
Dans le premier tome, on n'a aucune surprise. Je veux dire.
Presque tu retrouverais des passages de du Dracula de Bram Stoker, quoi. C'est
voire même de celui de Mel Brooks, tu vois. Quoi, il était bien, je veux dire.
C'est quoi, il s'appelait celui avec
Mort et heureux de l'être?
Non, celui de Dracula 2000, non?
Dracula 2000
avec le mec qui jouait dans qui a-t-il un film pour sauver la reine ou
Ah, tu veux, avec Leslie Nielsen, oui, c'était Mort et heureux de l'être de Mel Brooks.
Ah oui, exact. Oui. Non,
il y a eu un Dracula 2000, effectivement.
Non,
mais je l'ai jamais vu.
Avec, non, ouais, tout à fait. Là, je suis à côté.
Je suis passé à côté.
Ouais. Je crois que t'as rien manqué. Je crois qu'il y a un truc avec Virgin aussi dedans. Il était déjà présent. Continuons donc sur le dessin. Moi, c'est vrai que du coup, le scénario dans le premier était lent, mais le dessin te porte quoi, un petit peu quand même le truc, je trouve. Même si j'ai trouvé que le trait était quand même assez gras sur dans le premier tome pas trop, mais dans le deuxième c'est vraiment un trait très gras sur tous les contours de personnages et ça jure un peu quoi.
Il y a un côté art nouveau. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté art nouveau dans les décors, dans les designs, avec un trait un petit peu plus je veux pas dire brouillon, plus primal qu'il y a dans le trait, quelque chose de plus, on sent qu'il y a un truc un peu jeté, mais ce côté art nouveau avec justement, comme dans les dessins de Mucha, les contours qui sont rehaussés, qui sont retravaillés, un travail sur les volutes, sur les décors, sur les robes par exemple, tout ce qui est au niveau des motifs, moi je trouve le dessin superbe, c'est-à-dire qu'en gros on a l'impression que c'est du Mucha mais qui est fait pour bouger.
Ouais, mais là, le dessin est superbe, mais je trouve que là, le contour te.
Moi,
ça m'a un peu choqué.
Moi, ça
parce
me plaît.
J'ai vraiment l'impression que ça faisait carrément des plans, quoi.
Le seul truc qu'il y a, c'est que on sent qu'il ne met pas le même soin à faire son album que ses couvertures, qui sont pas les couvertures comme elles sont belles. Voilà.
Et pour une fois, c'est l'auteur qui l'a fait.
On sent qu'il ne met pas le même soin, mais d'un autre côté, il n'a pas la même nécessité. La couverture, c'est l'illustration, c'est pour mettre en avant. Le dessin, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement, il y a toute la narration à voir autour. Et moi, je trouve que.
Puis, il faut aussi quand même qu'il case les dialogues.
Ouais.
Parce que l'air de rien, quand vous lisez un dé, c'est quand même une bonne tripotée de dialogues.
Il y a pas mal de passages silencieux quand même. Hein.
Ouais, mais bon, tu peux pas te dire, tiens, je me prends la BD, je vais la lire en 10 minutes.
L'avantage qu'il y a, c'est que les vampires, dedans, ils ferment pas mal leur gueule, en fait. Non, mais c'est vrai, quoi. D'habitude, dans les trucs de vampires, tu sais, le vampire grandiloquent qui se la pète. Non, là, les vampires ferment pas mal leur gueule. C'est plutôt les gens normaux qui parlent et qui parlent bien. Franchement, très intéressant, très prenant, et moi, rien que pour ce mystère autour de Drake, qui est pas forcément un mystère, mais enfin,
qui est, je pense, enfin, à mon avis, on va avoir des surprises.
Ouais, voilà.
Et puis bon, juste pour le duo et parce que ça devient vraiment passionnant, voilà, vivement le tome 3, mais je pense qu'à mon avis, on va devoir l'attendre pendant quelques temps quand même.
2 ans.
Ouais, au moins.
Ouais, Majorana est pas un rapide. Errol, je ne sais pas s'il est rapide ou pas, mais bon, là, il va avoir du temps libre. Il a fini de caper de crocs.
Ouais, mais bon, peut-être qu'il a d'autres projets aussi.
Ouais.
Mais enfin bon, voilà, c'est il y a 2 tomes pour l'instant à saisir.
Shutterbug Follies. Alors là, on va vous faire un petit truc en 2 temps. On va commencer par vous faire la critique. Et juste après, on va vous passer l'interview de l'auteur, Jason Little, que j'ai rencontré au Festival d'Angoulême et que nous allons, avec notre talent habituel, doubler. Hein. Donc tu pourras dire que tu as été aussi Jason Little, tu vois.
Ouais, mais ça me fait moins kiffer que Stan Sagal, tu vois, parce que je le connais moins quand même.
Ouais, voilà, c'est vrai.
Mais en même temps, j'ai adoré son boulot.
Ouais. Shutterbug Follies, c'est le 2. Alors, c'est la première aventure de Bee, une jeune fille. Mais il faut juste savoir que c'est le 2e tome paru en France. En France, ils ont passé dans le désordre. Ils ont d'abord publié le 2e tome avant de publier le 1er. C'est chez Aquileos. Et c'est par Jason Little. Ça nous raconte les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Bee, qui, pour financer ses études, travaille dans un labo photo. Voilà, c'était il y a quelques années, il faut croire. Enfin bon. Dans un labo photo, et donc s'amuse à collectionner les photos les plus insolites qu'elle peut récupérer. Elle se fait des doubles pour se faire sa petite collection, etc.
C'est des retirages, c'est pas bien ça.
Ouais. Et sauf que, elle commence à avoir quelques photos qui l'intriguent, genre avec des cadavres, genre des trucs de meurtre. Et elle commence à être intriguée, à se poser des questions sur la personne qui lui fournit, qui lui fait développer ça, et commence à enquêter dessus. Un petit peu inconsciemment quand même, elle se met pas mal en danger. Et là, s'enchaîne toute une série d'enquêtes, de faux-semblants, tout en découvrant au fur et à mesure la personnalité de cette jeune fille, qui est assez bien écrite, parce qu'on suit vraiment en parallèle cette fille qui est un tournant de sa vie. En gros, elle est en train de grandir, elle est en train d'évoluer, elle est en train de trouver son indépendance. Elle est aussi en train de chercher l'amour, tant qu'à faire. À côté de ça, on parlait d'un thriller. On est vraiment dans un mélange de thriller et de BD sur le personnage, le thriller prenant un peu le devant. Au niveau du dessin, je n'ai trouvé qu'un mot, c'est ligne claire. C'en est les deux, tu vois, déjà le mot.
Dynamique.
Dynamique. Bon, on est dans une ligne claire à la RG. Vraiment, moi, ça me fait penser à du RG. Avec vraiment une mise en page que j'aime beaucoup, très simple. On est dans un format à l'italienne. Il y a un travail sur la mise en page qui est plutôt intéressant. De temps en temps, il se permet certaines planches un petit peu originales au niveau de la forme.
Moi, tu parles d'Hergé, je serais pas. Moi, j'aurais plutôt dit Scott McCloud, quoi. Dans la manière de faire de construire ses pages, dans le dessin en lui-même, ça aurait été plutôt ça, moi, son inspiration, j'aurais dit.
Je crois qu'il est remercié d'ailleurs à la fin du bouquin.
Ah ben voilà, tu vois. Donc du coup, non, là, ça aurait été plutôt été lui pour moi sa source, quoi. Ça m'aurait pas fait penser à du RG.
Ouais, mais moi je trouve qu'il y a un côté RG dans le trait, dans la ligne claire, même si pour le coup il y a beaucoup de filles dessinées. Et l'histoire, donc oui, bon, et tu as aimé le dessin, tu as trouvé ça, les couleurs sont très bien amenées, c'est bien trouvé.
Je trouve ça très bien amené, c'est très dynamique, parce qu'il y a autant de... il y a tous les passages où en fait on voit l'enquête de Bee, donc qui finalement, enfin c'est un polar quoi, hein, tu suis l'enquête au fur et à mesure.
Tu te dis mais pourquoi elle va là, elle est trop conne, il faut pas.
C'est ça, il y a les poursuites, je trouve que voilà, dans tous ces moments-là, on a une bonne dynamique dans le dessin, et dans le même temps on a aussi une bonne dynamique aussi sur tout ce qui est tous les plans photographiés, parce que l'art de rien c'est quand même aussi là un petit peu le cœur de l'enquête, quoi, et c'est beau, quoi.
Puis il y a tout un passage au niveau scénaristique, c'est là qui est intéressant, sur le faux semblant, c'est à dire qu'on passe son temps à être baladé dans le scénario, à croire que mais en fait
qu'est-ce
non
qui est vrai,
mais
qu'est-ce
en fait
qui est
peut-être
faux,
ouais. Mais en fait non, parce qu'en fait le fait que ce soit des photos avec des cadavres, on nous explique pourquoi.
Parce
il y a une bonne raison.
Parce que, par exemple, il y a un, c'est un croque-mort.
Voilà.
Et qui prend en photo ses meilleures œuvres.
Oui, ses meilleurs réaux. Il y a un artiste contemporain qui est mis au milieu, qui fait des trucs bizarres. C'est normal, il est artiste contemporain. Sauf qu'à force d'enquêter sur un truc, elle va découvrir d'autres trucs qui vont l'intriguer encore. Elle est d'une curiosité insatiable, cette jeune fille.
Très particulière.
Elle commence à brancher un gars aussi. chauffeur de taxi musicos. Qu'elle a l'air bien
déjantée. Mais là aussi, par contre, il y a une facilité au niveau scénaristique, parce qu'ils se recroisent à un autre moment.
Oui.
Et c'est quand même assez improbable.
Ouais. Et il y a sa meilleure copine aussi, qui elle est beaucoup plus débridée.
Extravertie.
C'est une très très bonne enquête. Moi, franchement,
c'est très sympa. C'est assez palpitant, parce que du coup, on est pris dedans. Et on suit son aventure en se disant mais non, fais pas ça, tu vois, moi je suis vraiment prêté au jeu, et tu vis l'enquête, tu es en train de vraiment te dire, voilà, comme dans le premier Alien, tu te dis mais laisse le chat, casse-toi Ripley, quoi. Pareil là, tu fais exactement la même chose.
Une scène d'action finale qui est super bien menée.
Alors et... là par contre, il y a une scène d'action à la fin qui m'a vraiment fait penser aux Sopranos. je pense que
Alors,
là tu feras une coupe, hein. C'est la scène quand ils sont en train d'ouvrir les coffres
Moi, je me suis imaginé tous les cadors, en train, tous les sopranos, c'est en train de. Ouais, et donc là, et toi, tu sais pas, ils sont en train de tout péter toutes les serrures. Mmh. J'ai trop imaginé les sopranos.
Et la fin, tu l'as pas trouvé un peu abrupte? Les dernières cases.
Moi, ça m'a pas choqué, ça m'a pas marqué.
Moi, ça m'a fait sortir de l'histoire, mais d'un coup, quoi. J'ai trouvé ça assez. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est légère, en fait, hein, tout du long. Et à la fin, bah, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté amer. C'était pas.
Ouais, ça m'a pas plus choqué que ça, écoute.
En tout cas, c'est un très bel album. Moi, que...
C'est chiant en argent d'une bibliothèque.
Ouais, le format à l'italienne.
Voilà, mais c'est vraiment un moment très sympa et c'est vraiment agréable à lire.
Mais pourquoi ce format à l'italienne ? Eh ben, tu sais quoi ? On va demander à Jason Little.
Ça, c'est de la transition.
This is Jason Little and you're listening to La Voix des Bulles.
Donc, nous recevons Jason Little pour une interview qui vient de publier chez Aquileos les comics qui parlent de Bee. Donc, Shutterbug Folly, qui est le premier tome et qui est sorti en deuxième, et Motel Art Improvement Service, qui est sorti en premier. So, Jason, you have pre-published the first
Jason, vous avez mis en ligne les premiers albums de Bee sur votre site internet avant leur parution. Est-ce que c'était une stratégie commerciale ou un cadeau pour vos lecteurs et pourquoi les avoir retirés ensuite?
Je souhaitais publier les albums gratuitement dans un premier temps pour que les lecteurs réguliers puissent suivre l'histoire sur internet. Ils peuvent même lire en fait gratuitement la totalité de l'histoire s'ils consultent régulièrement le site. Mais quand la période de gratuité est finie, en fait, je les retire et ils doivent payer en fait s'ils veulent acheter l'album.
J'ai vu sur votre site internet que pour Shutterbug Follies, vous avez testé plusieurs mises en page, dans les tons sépia, pour la presse papier. Avez-vous vous-même choisi la mise en page dans laquelle est finalement paru l'album ?
Au départ, c'est ma première éditrice chez Double D qui a choisi le format paysage. Au début, je pensais faire un livre de 64 pages comme les albums de Tintin, mais elle a remarqué qu'il y avait de la place au milieu de chaque page qui comptait 4 colonnes, et elle m'a proposé en fait de couper chaque page en deux, ce qui ferait en fait deux fois plus de pages. De cette façon, l'album en fait serait plus épais parce que je pense qu'elle craignait que l'album paraisse trop fin et qu'on croit que c'était un livre pour enfants. Parce qu'en Amérique, en fait, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un petit peu de nudité, le livre est automatiquement classé dans la littérature pour adultes. Elle a pensé donc que c'était de la littérature pour adultes, car il y a un peu de sexe. Donc elle voulait que le livre soit plus épais pour correspondre justement au format de livre adulte.
Vous avez dû retravailler certaines pages car dans la version que vous avez publiée sur votre site internet, il y a une superbe double page avec une vignette centrale partagée en deux. Vous avez dû reprendre toute la mise en page pour cette édition.
J'ai laissé un espace horizontal au centre et autour de cet espace, je pouvais mettre un petit peu ce que je voulais. Je pouvais mettre des vignettes en diagonale, des lignes courbes. Je pouvais travailler sur la gouttière et je pouvais aussi du coup partager en deux l'espace central.
Je trouve le caractère de Bee très réaliste, alors que les personnages secondaires sont souvent caricaturaux. Était-ce un choix délibéré afin de souligner le réalisme de Bee ?
Improve the characterization of Bee.
She seems to be developing.
Elle se développe progressivement, mais de plus en plus vite maintenant. J'ai d'abord eu l'idée de sa tête. Je voulais qu'elle soit rousse, car ça passe bien dans les BD. Et il y a une tradition de personnages féminins roux dans les BD américaines. Et j'ai ensuite dessiné son corps. Et je l'ai faite maigre, avec une forte poitrine au départ.
Mais comme tous les personnages féminins sont sexy, ont des gros seins et sont maigres, finalement j'ai fait l'inverse et je l'ai dessiné plus grosse avec une petite poitrine et de larges hanches.
Sexy girl characters have big breasts and are skinny, so I just reversed it. I made her fatter with small breasts and big hips. And then she was very much like a Tintin character. Very simple.
Elle ressemble beaucoup à un personnage de Tintin. Sa personnalité est un peu développée, alors afin que le lecteur puisse se projeter en fait dans l'histoire et avec leur propre personnalité s'identifier. C'est ce que j'espérais au départ, mais aujourd'hui je travaille pour lui créer un père et une mère, ce qui va créer des problèmes qu'elle va devoir gérer, ce que je traiterai dans le troisième album.
Giving those characters problems that she then inherits those problems. She has her own neuroses related to her parents. So I think the third book will have that element to it.
Est-ce que vous travaillez sur ce troisième album?
Oui.
Il sera disponible sur votre site internet en avant-première?
Je pense que oui, je vois pas de raison que pour ne pas le faire, ça me semble une bonne idée.
Vous utilisez la ligne claire comme le faisait Hergé. Est-ce que la BD européenne est une de vos sources d'inspiration?
Major inspiration. It's European comics.
Yes, absolutely. Yeah. I think it's very unusual because most people.
Oui, je crois que c'est vraiment rare car la plupart des gens de ma génération, 70-80, n'ont pas accès à Tintin. Mon père est anthropologue et il a voyagé en Afrique et a assisté à des conférences en Europe. Et à chaque fois qu'il partait en voyage, il me rapportait en fait un nouvel album de Tintin.
And he worked in Peru, and so he discovered.
Il a travaillé au Pérou et a découvert ses aventures péruviennes dans le Temple du Soleil. Et il a beaucoup apprécié l'image péruvienne de la couverture. C'est cette référence au Pérou qui lui a donné envie de me faire connaître Tintin.
It was the Peruvian content that brought Tintin into my house.
But there's a lot of text.
Il y a beaucoup de texte dans Tintin. Vous regardez simplement les images.
Just look at the picture.
These were actually the English translations. Yeah.
Non, j'avais la version anglaise.
And no, it was the whole thing.
Tout ce qui touche à la narration, le suspense, les constructions des personnages et de leur histoire, les couleurs viennent de Tintin.
The character design, the backgrounds, the color, yeah, that was all comes from Tintin.
Your story is a half thriller and half romantic.
Votre histoire mêle le thriller et la romance. On suit l'évolution de Bee et de ses relations amoureuses. Est-ce difficile de mélanger ces deux genres?
Is it difficult to melt these two type of story?
I think it was a natural progression and it came from wanting to give her more character because
la partie romantique, je crois que ce fut une évolution naturelle qui est venue du personnage lui-même. Dans la première version de l'histoire, il y avait moins de romance et plus de mystère et de suspense. Mais j'ai ensuite réalisé qu'elle allait grandir et avoir des expériences sexuelles et qu'on en apprendrait davantage sur sa personnalité en développant cet aspect-là. J'ai donc décidé de m'éloigner un peu du suspense et d'accentuer le côté humain.
We would have to learn more about her personality that way. And so I moved a little bit away from the suspense and more into the human element.
Bee a beaucoup évolué pour ces deux albums. Comment imaginez-vous son évolution dans le futur après les étranges expériences qu'elle a eues dans le deuxième tome?
A lot of strange experiences she had in the second book.
Definitely having parents.
Avoir des parents sera certainement un grand défi. Je pense l'envoyer à l'université. Elle refusait l'idée d'y aller car elle était très indépendante et elle apprenait toute seule à travers ses aventures. Mais j'ai tellement de bons souvenirs de l'époque de l'université que je crois que c'est un décor très riche pour raconter une histoire.
J'ai tellement de bons souvenirs de l'université et du collège que je sens que c'est un lieu riche pour une histoire. Et donc je pense que je vais juste
Je pense qu'elle doit faire tout ce que font les filles de 18 ans, aller à la fac, et le défi va être de trouver des aventures intéressantes à raconter dans ce contexte.
Votre trait est très proche de la ligne claire d'Hergé, mais votre mise en page est très variée avec de nombreuses découpes. D'où puisez-vous votre
inspiration pour ce type de narration?
A lot of the color and the line comes from Hergé, but the panel layouts comes more from
La couleur et le trait viennent d'Hergé, mais la mise en page vient de la tradition des comics américains comme ceux de Winsor McCay et quelques autres. Les Sunday comics, des journaux, et il y a d'autres artistes de comic strip comme Frank King, les comics underground des années 60, Crumb, Art Spiegelman, et un style un peu plus moderne avec Chris Ware qui prête vraiment une grande attention à l'organisation de la page.
And then more recent formalism like Chris Ware and his attention to the way the page is designed.
You think your comics first for the press?
Vous pensez d'abord vos BD pour les journaux ou pour les albums?
Them for the book.
For the press? Oh, you mean for newspaper?
Newspaper, yes.
I think of them for the book first.
D'abord pour les livres, je crée une œuvre qui fonctionnera dans un album. Quand je suis satisfait de cette version, je la retravaille pour pouvoir la publier sur Internet et ou dans un journal. Mais l'album est prioritaire.
Last question.
Dernière question. Quelle est votre dernière découverte BD?
Je suis actuellement au milieu de l'adaptation de Pinocchio par Winchlus. Et je l'apprécie vraiment beaucoup. Il y a des vignettes en noir et blanc, d'autres qui sont peintes, d'autres qui sont faites avec Photoshop. C'est assez subversif, ce que j'apprécie en ce moment.
It's transgressive. That's what I'm enjoying these days.
Blotch! Page!
Aujourd'hui, dans Les Experts Miami, le tueur de la mort. Kelly Duquesne s'avançait lentement dans le salon de barbier installé sur la plage. Le cadavre gisait, la gorge horriblement tranchée. « Oh là là !» dit-elle en manquant de tomber à cause de ses hauts talons. « Il lui arrivait quelque chose d'horrible. Il a dû se couper en se rasant. On dirait la méthode des narcotrafiquants cubains. Qu'en penses-tu, Horatio ? Mais où es-tu, Horatio ?» Horatio, le regard dans le vague, regardait au loin vers la plage. Un jeune enfant, l'air attristé, était recroquevillé dans le vide, une lame de rasoir ensanglantée dans les mains. Horatio s'approcha de lui et lui posa la main sur l'épaule, d'un air fraternel.
« Écoute, petit, tu peux avoir peur.
Tu es
sans doute très choqué, mais... »
Horatio remit ses lunettes d'un air entendu.
« Je les attraperai. »
Yeah ! Tu ne mourras pas encore. Tu ne mourras pas encore. Oh non.
Sans doute le générique le plus pourri de toute l'histoire de nos Splash Page, mais...
Attends, vous avez l'air guitare en même temps,
ouais,
c'était vraiment...
Mais
ça
voilà, nous on a bien rigolé, ça doit être vraiment tout pour grave.
Ceux qui trouvent que notre humour est minable sur ces mises en scène peuvent se féliciter de voir que nous sommes capables de pire, oui.
Mais au moins on s'amuse.
Tu mourras moins bête de Marion Montaigne.
La science c'est pas du cinéma, le tome 1 chez Ankama Édition.
Dis le vrai sous-titre de la BD, c'est Tu mourras moins bête. Mais tu mourras
tu
quand même.
Tu mourras quand même, tôt ou tard finalement. Alors qu'est-ce que ce livre ? Bien, c'est toutes les idées reçues du cinéma qui sont expliquées de manière scientifique, avec des vrais faits.
Par le professeur Moustache.
Par le professeur Moustache. Alors en fait, c'est à chaque fois on part d'une idée qui sera en fait une question d'un auditeur.
D'un
lecteur qui envoie une petite carte qui par exemple, si une bombe atomique est envoyée sur Paris, ai-je une chance de survivre comme Indy dans Indiana Jones 4 de Josiane Donnelly.
Pardon. Oui, voilà. Alors, c'est des cartes postales qui sont dessinées par des illustrateurs assez connus en général et fort talentueux la plupart du temps.
Oui, oui. Mais voilà, donc du coup...
Fabien Wellman n'est pas super en dessinateur, mais bon, hein, on ne peut pas trop lui en demander.
On ne peut pas être scénariste et dessinateur.
Si on peut.
Pas tout le monde a ce talent. Et donc du coup, ensuite le professeur Moustache donc, va expliquer avec des vraies raisons scientifiques comment est-ce qu'il est possible de survivre ou pas à une bombe atomique dans Paris.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Tu mourras moins bête, c'est l'adaptation du blog du même nom de Marion Montaigne. Donc moi je lisais le blog, donc je connaissais avant. Toi tu ne dis pas internet, c'est trop compliqué. Et donc...
C'est un coup bas.
Oui, je sais. Et donc, les cartes postales ont été redessinées pour l'occasion, hein, la plupart, pour mettre des invités, etc. Et là, elle a fait une sélection de ses notes de blog, je crois qu'il y en a des nouvelles aussi, qui étaient en rapport avec un peu les... ce qu'on pense, ce qu'on voit dans le cinéma et tout ce qui est pipeau, surtout dans le cinéma, les séries, la science-fiction et compagnie, c'est rangé par thème.
Voilà, ou les idées reçues aussi. Pourquoi est-ce que, par exemple, il n'y a pas un parachute pour chaque passager dans les avions de ligne? Et c'est, l'explication,
c'est là, je la connaissais, celle-là.
L'explication est tout à fait logique et compréhensible.
Oui, c'est très bien expliqué. C'est de la vulgarisation scientifique. Hein,
c'est ça. Alors, du coup, t'as dit quoi, toi, au fait, pour le dessin ou pour le
scénario? À l'arrache, le dessin. À l'arrache.
Pour moi, ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire, en fait.
Ouais, à l'arrache, quoi.
Ouais, non, mais parce qu'en fait, tu lis le truc et après, bah, tu te l'imagines dans ta tête. Et c'est là que c'est exceptionnellement jouissif. Voilà.
Parce que, ouais, franchement, ça s'est fait vite fait. Alors, enfin, j'ai l'impression que ça donne, en tout cas, que c'est fait sans se prendre la tête, juste pour le fun. Si ça vient d'un blog BD, je pense qu'au début, Marion Montaigne faisait ça pour s'amuser, sans penser qu'elle allait le publier un de ses quatre. Et c'est vrai que c'est totalement à l'arrache, mais ça passe bien. Un truc fait à l'arrache, on reconnaît tous les personnages qu'elle caricature dedans, on les reconnaît.
Oui.
Et pourtant, c'est vraiment une impression à l'arrache. Elle se dessine elle-même, c'est elle, le professeur moustache, avec des moustaches, mais qui sortent de ses narines, en fait. Oui, je ne cherche pas à comprendre. C'est un personnage mystérieux. On voit qu'il y a des vieilles histoires. Des fois, elle n'a pas la moustache dans les premières, et puis ensuite, ça revient. Enfin, c'est...
Peut-être qu'elle se rase de temps en temps.
C'est possible qu'elle se rase les narines. Et c'est drôle. Donc oui, le truc, c'est à l'arrache. Ouais, toi, la place d'imagination.
Ah ouais, non, c'est vraiment ça. Parce que du coup, le dessin, comme il est, entre guillemets, très simple... moi, voilà, de suite, j'imaginais en fait je me faisais en fait mon cinéma dans ma tête, quoi. Comme quand tu lis un bouquin et que tu t'imagines tes héros en train de faire les actions.
C'est peut-être aussi qu'il y a beaucoup de place qui reste au texte, quoi. Il y a quand même pas mal de texte, hein. Mais il y a quand même une narration dans le sens où il y a des silences qui sont posés, des pauses sur certaines images, des moments de réflexion débiles, des chutes complètement nawak.
Mais qui sont excellentes. Alors du coup, vous allez passer au niveau des questions. On peut avoir quand est-ce qu'on aura un sabre laser. On a...
Oui, le sabre laser qui, en fait, comme c'est des lumières, c'est à l'infini et ça détruirait le monde.
Voilà, si un astéroïde fonce sur la Terre, est-ce que Bruce Willis pourra nous sauver?
J'ai beaucoup aimé, moi, le passage où elle se retrouve dans une station spatiale avec plein de stars.
Ah ouais.
Elle se retrouve dans une station spatiale avec... Il y a Robert Downey Jr., je crois. Il y a Robert Pattinson.
Ouais, mais là je l'ai plus.
Voilà, et il était très très sympa celui-là. Enfin, de toute façon, ils sont tous sympas, et puis surtout on apprend quelque chose à chaque fois.
Oui.
Je crois que c'est là qu'on peut en venir au scénario. On en a déjà un peu parlé. C'est érudit.
J'ai mis pédagogique.
C'est bourré. Alors là, d'un coup, j'ai un doute. Est-ce qu'elle met toutes les sources dedans? Parce que sur le web, elle te refile en fin d'article à chaque fois des tonnes de liens vers des sources, etc.
Non, là on les a. Enfin, là je les avais pas lus au départ.
Donc j'ai pas fait gaffe. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça lui a permis son blog de rencontrer des vrais scientifiques qui l'ont invité à voir des vrais trucs, qui lisaient son blog. Donc elle t'explique comment est-ce qu'elle a appris à tirer avec un gros flingue. Elle a vu des microscopes de la mort. En général, quand elle voit des microscopes de la mort, elle appelle Boulet pour qu'il l'accompagne, parce que Boulet, les microscopes de la mort, il adore. Lui, il rêverait de pouvoir voir toutes les horreurs qu'il y a dans sa moquette. Ouais, c'est rien que d'imaginer...
Vous passez sa raclette, la raclette qu'il avait posée dans le jardin pendant 6 mois, c'est ça?
Ouais, c'est une vieille histoire maintenant, la raclette.
C'est une vieille histoire, la raclette, mais bon.
Bon, donc...
Il n'y a plus de test culinaire, d'ailleurs, chez Boulet. Petit aparté.
Tu mourras, Mohamed. Qui m'a surtout fait me rendre compte d'un truc terrible. Tu mourras, c'est écrit avec 2 R. Alors que moi, on m'a toujours dit que mourir, c'est avec un R parce qu'on mourait qu'une fois, et que nourrir, il y en avait 2 parce qu'on se nourrissait plusieurs fois. Voilà, donc c'était la digression grammaticale pourrie du truc.
Moi, c'est excellent. Voilà, je pense que c'est totalement inutile, donc rigoureusement indispensable.
C'est pas inutile, je suis désolé. Non, après, si, tu peux t'amuser à regarder toutes les séries en disant oh, c'est pas possible, mais c'est trop nimp, mais où il va, mais pourquoi il fait ça?
Oui, mais au départ, tu te dis bah pff, non, j'ai pas acheté ça, quoi. Et en fait, quand tu l'as, tu te dis mais comment j'ai pu en passer avant?
Voilà, parce que savoir que se prendre une balle dans la jambe, et bah, souvent, c'est la mort, en fait.
Se prendre une balle tout court, c'est la mort.
La plupart du temps. Hein, les maladies, les... Et le pire, c'est quand elle reste dedans. Mais bon... Tu mourras moins bête de Marion Montaigne chez Ankama Édition. Est-ce qu'on a le prix ou un... c'est un ANK quelque chose ou
Ben en fait, c'est qu'il y avait le prix, mais comme j'en ai fait cadeau à ma femme...
Tu l'as caché...
c'est pas moi, c'est Dali.
Ah, c'est voilà. Elle a bien fait son travail, la vendeuse. Yeah, il essaie de le lire au travers du truc.
Je crois que c'est 25 euros.
Ouais, c'est dans ces eaux-là. C'est un bouquin très sympa. Petit format, format... je dirais format blog, tu sais, genre les notes de boulet et compagnie... Un très 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 bon livre.
Ouais.
C'est la sélection de Thio.
Avec une belle intro bien poucrave, mais on a bien rigolé.
Mate manga.
Bonjour Matt.
Salut Pied, salut Thio. Bonjour les auditeurs.
Alors aujourd'hui tu te lances dans un sujet, je pense que tu as dû donner beaucoup de ta personne pour nous en parler.
Eh ben pas tant que ça, tu verras.
Pas tant que ça ?
Ben pas tant que ça.
M'intrigue. Ton mot du jour ?
C'est le shoujo.
Mais qu'est-ce donc que ça ?
Un lieu où on fait du karaté.
Oui, c'est ça.
Ouais, tout à fait.
Ouais. On m'a remercié parce que je coupais pas tes vannes, tiens d'ailleurs.
Ouais, mais je pense qu'il y en a bientôt qui vont te remercier en fait, de les couper.
Ouais. Donc vas-y, le shoujo, explique-nous un peu tout ça.
Bon, le shoujo, en japonais, ça signifie jeune fille. Et de la même façon pour le shonen, c'est la cible qui définit le genre également. C'est un genre qui est, on va dire, centré sur les relations entre les personnages dans le bouquin, qui tourne en général autour d'une histoire d'amour.
Juste une question, je te coupe déjà tout de suite parce que je suis un casse-cou.
Vas-y.
Le shonen, tu nous as dit que le nom du genre en vrai c'était Neketsu. Il y a un vrai nom pour se la péter en société pour le shoujo ?
Ça doit exister, mais je le connais pas. En fait, c'est un sous-genre.
Zut, on peut pas se la péter en société.
Comme le shonen, le shoujo a des codes du genre qui sont relativement établis. C'est en général le shoujo qui a amené le côté grands yeux au niveau des personnages pour exprimer davantage les émotions. Et j'en parlerai tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a associé au manga, parce qu'à une période on a eu pas mal d'animes à la télé qui étaient des shoujo, et donc du coup les gens ont associé manga grands yeux.
Quand mais...
Ah, t'as vu, j'avais le fond.
Oui, mais Candy, les gens disaient pas que c'était japonais à l'époque, quand ils disaient du mal des dessins animés japonais. Ils parlaient de Goldorak, mais pas de Candy, parce que pour eux, Candy, c'était pas japonais.
Ouais, bah, Candy, Gigi, Sailor Moon, tous ces animés qui sont des shoujo et qui, dans la tête des gens,
ont des transformations, ouais. Ouais. Excuse-nous, Mathieu, on est en pleine.
Là, on a des souvenirs des mois adolescents.
Ouais, non, mais je savais en préparant la chronique que ça allait éveiller certains émois. Parce que on doit l'avouer, tous les mecs ont regardé Gigi en se disant est-ce qu'aujourd'hui ils vont bien penser à mettre le floutage quand elle se transforme.
Oui, non, mais en même temps, il y avait quand même aussi une vraie histoire dans Gigi. Hein. Bon, triste à la fin d'ailleurs, mais une vraie histoire.
Ouais, mais rien à côté de Georgie. Bon, on est. Ah, putain, en fait, on est des produits shoujo.
En fait, bref. Donc, en gros, c'est un genre qui est basé. Quand on parle de shoujo, en général, il y a beaucoup de métaphores visuelles, justement, on en parlait, d'introspection, de flashback. Et j'ai déjà abordé un peu le thème, mais je voulais faire une petite aparté sur le côté Magical Girl. Donc, Gigi, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura. Qui sont quand même des shoujo qui sont très connus.
Ah, Magical Girl, ouais, vas-y, explique.
La Magical Girl, qu'est-ce que c'est ? C'est une fille, on va dire, normale, qui est soumise à différentes problématiques.
Une fille normale soumise, ça me plaît.
Ouais, faudra peut-être couper ça, parce que sinon...
Non, mais là, on passe plus au niveau du public. Hein, pour les
ouais, voilà.
Vas-y, là, continue.
On est PG-13, là, déjà, du coup. Et donc, en gros, le thème, c'est plus tout à fait une histoire d'amour. Là, ce serait plus le passage vers l'âge adulte. Parce qu'en fait, en gros, quand on analyse le concept de la Magical Girl, c'est une jeune fille qui est soumise à divers tracas de la société. Divers tracas, type démon, etc. Mais qui sont des représentations symboliques de notre société. Et elle obtient un pouvoir magique ou un bâton ou je ne sais quoi, qui un objet qui lui permet de se transformer en adulte.
Là, Thio est en plein dans l'analyse du bâton qui permet de se transformer en adulte.
Voilà, ça c'est fait.
D'un point de vue psycho, quand même, là, il y a quand même une image qui est quand même assez évidente, je pense.
Oui, ouais, je pense, oui. tout de même.
Ah, moi, je voyais la Magical Girl. Alors, c'est moi qui avais une définition fausse. Je voyais qu'un truc comme Video Girl Eye était la Magical Girl, par exemple. C'était la fille magique qui arrivait dans la fille du garçon.
Non, non, non. Ça, justement, alors, Video Girl's Eye, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que c'est un shoujo? Est-ce que c'est un shonen? Il y a certaines personnes qui disent le héros principal est un garçon. Donc, ce sera un shonen.
Ouais, c'est comme toujours, dès qu'on parle de genre, il y a des trucs qui sont tendancieux, on sait pas trop où classer.
Tout à fait. Pour terminer sur la Magical Girl, le message derrière, c'est en fait ce genre a été beaucoup fait et beaucoup créé à une époque pour permettre à la jeunesse de pas craindre le futur et la métamorphose, on va dire, vers l'âge adulte. Et ça fait partie d'une mouvance qui était à l'époque parce que la jeunesse japonaise avait une crainte énorme du futur.
Eh bien, je pense qu'on est au taquet maintenant sur le shoujo et la Magical Girl. Bon, tu nous as choisi quoi pour nous montrer ce qu'était ce grand genre? Fais-nous rêver.
Ah bah, pour vous faire rêver, j'ai surtout voulu faire rêver Thio, en fait.
Oh.
Oula. J'ai pris un manga qui s'appelle Vampire Knight. Un shoujo.
Ah oui, je connais, c'est de le droit et.
C'est ça.
C'est ça, Chevalier Vampire, c'est.
Un Chevalier Vampire, attends.
Oui, ouais, ouais.
Non, rien à voir.
Avec des dialogues qui sont PG-18, en fait.
Ouais, c'est ça.
PG-18.
Ouais. Non, rien à voir, donc.
Rien à voir. Non, non, là, ça reste du gentil, ça reste du sympa. Le genre, bon, bah, romance et vampire. Spéciale dédicace à Thio avec son vampire qui brille dans le soleil.
Mais ça reste un film agréable à regarder. Moi, je persiste. Il faut voir une fois dans sa vie.
Allez, je vais aller dans ton sens. Je l'ai vu également. Et à part certains passages qui m'ont fait hurler et pleurer devant ma télé, je n'ai pas passé un moment désagréable.
Bon, revenons au sujet là. Vampire Knight, c'est lui qui nous intéresse. Il y a Chevalier dedans, tu vois. On sent qu'il ne veut pas briller au soleil, lui.
C'est un manga de Matsuri Ino.
C'était presque du premier coup cette fois.
Qui est édité chez Panini Manga. L'histoire se passe au sein de l'Académie Cross. Donc, c'est un monde, on va dire, contemporain. C'est pas du médiéval. C'est du contemporain avec des vampires. Au sein de l'Académie Cross, on trouve deux classes. Une classe qui s'appelle la Day Class et une classe qui s'appelle la Night Class. Ce que ne sait pas la Day Class, c'est que la Night Class est composée uniquement de vampires. Et en fait, c'est une académie où les deux classes ont cours l'une après l'autre.
Laisse-moi deviner, une jeune fille de la Day Class va tomber amoureuse d'un mec de la Night Class.
Non, justement, on tombe pas dans ces poncifs-là.
Un petit garçon va tomber amoureux de la prof de la Night Class.
Non plus. Oui, donc vous avez réellement décidé.
Il y a un chat.
Ma chronique.
Laisse-le finir. Après, on va encore avoir une rubrique manga de 20 minutes.
Eh ben oui, mais forcément. Là, j'y serais pour rien. Là. C'est pas parce que je suis malade, ce coup-là. Les deux héros, Zero Kiryu et Yuki Cross. Donc, Yuki Cross, l'héroïne, et Zero, le héros, sont deux enfants qui ont été adoptés par le directeur. Ce sont des chargés de discipline et gardiens de ce secret-là, en fait. Ce secret qui n'est connu que du directeur et des deux héros. Donc en gros le but c'est que la Day Class doit rentrer à son dortoir pour que la Night Class puisse avoir ses cours, ils sont là pour assurer la discipline. Okay. Ces deux héros ont été recueillis tous les deux par le directeur pendant leur prime jeunesse parce que le point commun qu'ils ont c'est qu'ils ont été tous les deux attaqués par des vampires et toute leur famille a été exterminée par des vampires. Le dernier point de l'histoire qui est assez intéressant, c'est que l'héroïne a été sauvée du vampire qui avait attaqué sa famille et qui cherchait à l'attaquer par le chef de la Night Class. Donc c'est là où il y a une
elle a été sauvée petite, par un vampire.
Il y a une petite histoire, il y a un triangle amoureux, on dirait.
Et donc il y a des méchants vampires et des gentils vampires, en fait, c'est ça?
Oui. Oui, on dira ça. Il y a toute une histoire, tout un background sur les vampires avec les sang purs, les vampires.
Ouais, ils ont créé tout leur univers, toute leur mythologie vampirique à eux. Quoi.
Ça, voilà, il y a toute une mythologie vampirique et c'est ça qui est très sympathique.
Ok.
Sur le dessin, les deux mots que j'ai pris, c'est éthéré et sombre. Donc le dessin, c'est un classique du genre. On a des traits qui sont très fins, très éthérés. On a des grands yeux, on a des visages qui sont limite androgynes.
Des étoiles dans les yeux.
Des étoiles dans les yeux, oui et non, mais des yeux qui sont très expressifs.
D'accord. Alors, des étoiles dans les yeux au soleil.
Et pas fin tacle. Au début, clairement, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans le style parce que c'est pas le style de dessin que j'ai l'habitude de lire.
C'est pas les beaux jeunes hommes androgynes.
Voilà. ça résume bien le truc. Mais au final, au bout d'un moment, je me suis habitué à la charte graphique, en fait, on dira. Et vraiment, l'histoire m'a bien pris. Et c'est des dessins qui restent très efficaces. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'au contraire, le trait était tellement efficace que sur une même expression, on arrivait à lire deux messages clairement différents. Un message sur la posture et le visage de la personne, sur ce qu'il était en train de dire. Mais au fond, en regardant bien le regard, on arrivait à voir une autre... Il y avait une deuxième lecture, simplement graphiquement, en un seul coup d'œil. Donc, au niveau du dessin, j'étais assez...
Dit comme ça a l'air bluffant, ton truc. Hein.
Ouais, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Il faut s'habituer à ce type de trait. Mais franchement, j'ai aimé. Ensuite, j'en viens au point ultra fort de ce manga, qui vraiment m'a bluffé, c'est le scénario. C'est la construction du scénario. On a des personnages qui sont attachants parce que vraiment ils sont emplis de contradictions, de questionnements, sans être lourds. Ils sont très humains. C'est des personnages qui sont très humains. On a limite tendance à se projeter en se disant, mais dans la même situation, comment je réagirais ? On a pas mal de questions qui sont posées, mais des réponses sont données au fil de l'eau. Et ce qu'il y a de plaisant, c'est que c'est pas une réponse à une question, puis point. C'est une question qui apporte d'autres
questions.
Une réponse qui apporte d'autres questions, mais plus poussées et plus profondes. Okay. Il y a de très bons rebondissements, sans forcément passer par le cliffhanger de fin de chapitre. Et on n'a pas besoin d'un cliffhanger en fin de chapitre pour essayer de revenir et de vouloir savoir ce qui se passe derrière, parce que le scénario est très très bon. On n'attend pas 20 tomes pour que certains éléments, on va dire, prévisibles aient lieu. Bref, on a un scénario qui est complexe, mais suffisamment bien maîtrisé et suffisamment bien étayé pour qu'à aucun moment on ait une lassitude de « il se passe toujours la même chose, on lit tout le temps le même scénario ». Et franchement, rien que pour ça, j'ai lu un tome et demi, parce que j'ai pas pu acheter les 14 tomes et j'ai pas eu le temps de lire beaucoup plus qu'un tome et demi. Mais je pense que du coup, maintenant, je suis bien attrapé parce qu'il va falloir que je sache la suite.
Ok, 14 tomes, c'est 14 tomes pour le moment en France, c'est ça ?
14 tomes en France, 15 au Japon. Et
ça continue ou c'est fini ?
La série continue en cours.
Ok, c'est le genre de série qui s'arrêtera que quand il en aura marre et que ça...
Elle.
Que... Elle, oui.
Je ne sais pas. Parce que vu le scénario, je pense qu'elle sait où elle va. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de Deus Ex Machina qui arrive et qui relance un truc où on se dit, mais oh là, qu'est-ce qu'ils nous font? Il y a une communauté assez importante sur ce manga. Ils ont déjà fait deux saisons en animé. Une première qui s'appelle Vampire Knight et la deuxième Vampire Knight Résurrection ou je ne sais plus. Time Warp.
Oui. Et donc, oui, tu nous disais.
Donc oui, la deuxième saison de l'animé s'appelle Vampire Knight Guilty.
Pour revenir juste sur le scénario, quand tu parles de voilà qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui se font par rapport au pitch de départ, une fois que t'as passé le secret, on va dire des personnes qui ont été adoptées, il y a quand même plus derrière quoi.
Il y a plus derrière, oui.
Voilà. Non, parce que c'est vrai que moi, quand t'as donné le pitch, j'ai dit bon ça c'est un petit peu le secret sur. C'est sur la manière d'arriver, sur ce qui leur est arrivé avant. Et puis bon, après, une fois que t'as passé ça, il faut autre chose, quoi. Donc visiblement, il y a matière, quoi.
Ouais, y a matière.
Si vous êtes curieux, le premier épisode de l'anime est disponible en VF et en VOST sur Dailymotion, gratuitement et légalement, sur la chaîne de KZTV.
KZTV, tout à fait. C'est ce que je voulais amener. Mais tu m'as volé ma conclusion. Merci, Pierre.
Ouais. Ben, merci pour cette fantastique rubrique. On
merci,
se retrouve le mois
à toi,
prochain.
Je pense que je vais regarder ça d'ailleurs. Tu vois.
Voilà, plus. Ciao.
Ciao.
Allez, ciao.
Pas de HS pour cette quinzaine ni pour ce mois-ci. Car Thieu nous avait fait une proposition que on va oublier. Hein.
Donc, non, oui, c'est une bonne proposition. Voilà, je veux dire, pour ces pères qui vont vivre un grand moment de solitude dans les magasins pour chercher des poussettes, hein. Voilà.
Voilà.
J'aurais pu les faire s'en sortir et toi, du suite, ben non, tu trouves ça
non, c'est un sujet pourri. Bon, hein, on est en post-cadre de James, on n'est pas en âge d'être parent. Hein, on a 20 ans chacun, hein, 21 l'an prochain.
À mon avis, je pense qu'il y en a plus qui sont proches d'avoir besoin d'une poussette que tu le penses. Enfin bon.
Merci de nous avoir écouté.
Prochaine émission.
Prochaine émission.
Laissez des messages sur iTunes.
Prochaine émission.
Je sais pas moi.
Bah, prochaine émission.
C'est dans 15 jours.
Dans 15 jours, ce sera l'émission sur Décalons et des Bulles. Donc ça sera hors série. Encore des décalages dans nos émissions. On va encore se retrouver à avoir des piles de BD en attente. Il faudra qu'on se fasse un épisode spécial super long avec toutes les BD qui traînent.
En fait, on va faire un HS juste avec les épisodes de retard.
Ouais.
Tout le stock.
Je pense qu'on va peut-être vous faire deux émissions d'affilée, des émissions sur deux semaines d'affilée. Je pense que ce qu'on va pouvoir faire, histoire de rattraper notre retard, tu vois. Genre la prochaine fois qu'on enregistre, on met deux émissions, on fait une semaine entre chaque, au lieu de deux, et on verra. Voilà, je suis en train d'effrayer Thio qui se dit mais quand est-ce que je vis ? Quand est-ce que je vis ? C'est moi qui fais le montage et les mises en ligne, c'est moi qui ai plus de vie. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et nous faire un grand coucou sur Facebook. Aimez-nous.
Ouais. Hein ? Sinon, vous pouvez venir à des calanques et des bulles aussi.
Voilà.
On aura des jolis t-shirts verts.
Ouais,
on sera visible de loin.
Ouais, je pars sur la couleur, on verra. D'ailleurs, t-shirts qui seront peut-être bientôt proposés en vente.
Je ne cautionne pas la couleur. J'ai demandé un changement, mais on m'a dit non.
Voilà, donc la couleur sera pourrie, ce sera ma faute. On espère rencontrer plein de chouettes auteurs. En tout cas, il y en aura plein de chouettes, donc on devrait au moins aller s'incruster et faire un grand sourire avec les yeux qui pleurent en faisant « J'adore ce que vous faites ». On évitera les interviews en anglais. Heureusement, il n'y a pas d'anglais. Ça nous permettra d'avoir l'air moins... Voilà.
Ouais, mais t'as été performant quand même.
Ouais.
Puis t'as osé le faire. C'est ça, c'est pas donné à tout le monde.
Faut oser. Et un petit mot sur le concours de notre épisode 50, qui était il y a quand même un mois maintenant. On a reçu quelques propositions, pas grand-chose. Ah là, hein, dès qu'il y a du travail, il n'y a plus personne. Hein, vous êtes plein pour participer au concours quand c'est des réponses faciles. Mais...
Je suis d'accord, mais ceux qui ont envoyé... Il y a du lourd et il y a du beau. Il y a
du drôle. Il y en a un, franchement, c'est très très joli. Enfin, tout est drôle, mais il y en a un. Il y a en plus un certain talent. Allez-y, quoi. Envoyez-nous des trucs originaux. Montrez que vous êtes génial. 28 BD à gagner. Et pas rien, quoi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc dans 15 jours. À bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt.
Jane Austen.
Voilà, ça y est.
Voilà, qu'est-ce qu'on est fort quand même. Hein. T'as vu comme ça, on disparaît dans le temps et on trouve des réponses. Donc ça m'a fait penser à cette ambiance-là, tu sais, cette noblesse anglaise un peu guindée.
Et c'est vrai que du coup, Richard Drake aurait une belle allure de Darcy en fait. Hein, là, du coup, voilà, pour les filles qui nous écoutent et qui elles aussi voient Darcy dans la version donc forcément télévisée, hein, de Raison et Sentiment.
Ouais. Je t'avoue que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu. C'est juste que j'ai une ambiance quand on me parle de ça, de Jane Austen, j'ai une ambiance. D'ailleurs, ils ont sorti il y a peu Orgueil, Préjugés et Zombies. Oui, c'est une adaptation libre sortie en BD, qui avait l'air sympa aussi. Poursuis. Ça y est, j'ai créé un blanc.
Et ouais, mais parce qu'en fait, là, d'un coup, je crois que j'ai dit une grosse boulette, quoi, mais...
Darcy, c'est autre chose, c'est ça?
Je crois que c'est dans Orgueil et Préjugé, en fait, Darcy.
Oui, et Orgueil et Préjugé, c'est Pride and Prejudice.
Donc c'est pas Raison et Sentiment?
Oui, non. C'est ça. Et Raison et Sentiment, c'est quoi?
Je crois que c'est rien, en fait.
Ça sonne bien, mais je crois que ça n'existe pas, en fait. Parce que je suis en train de regarder, parce que moi, je suis en train de me battre tout à l'heure.
Donc, si on poursuivait, au lieu de dire des conneries,
oh, putain, qui n'ont aucun intérêt.
Oh là 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 là. Bon, allez, enchaîne.
Deux secondes, attends. Non, Jane Austen, c'est ça. Et donc, j'ai tapé tout à l'heure Raison et Sentiment sur Wiki, il m'a sorti un truc, mais...
Non, mais là, c'est bon, quoi, on est...
Mais attends, oh, ça va, je suis pour rien, c'est pas ma faute, toi. Tu balances des infos et c'est des trucs de merde.
Et toi, tu cherches, mais on s'en fout, en fait.
Raison et Sentiment, Sense and Sensitivity, c'est un épisode de Angel, en fait. C'est le sixième épisode de la saison 1 qui s'appelle Raison et Sentiment.
Hey, tu vois un peu les références sensibles du néant.
Ah ouais.
Bon, ok, donc rien à voir.
On la refait.